Ouvrir les micros, ça va être mieux. Galançon dans Jazz, à micro vert. Et voilà. Ah, cette émission-là. Non, mais là, c'est ce que j'ai eu une rencontre de notre émission du matin avec les boss. Puis là, ben, c'est super intéressant. On avait plein de discussions. On aime le show du matin. Les auditeurs, vous semblez l'aimer également parce qu'on est en train de clencher des records d'écoute streaming. Fait qu'on est super content, mais on veut toujours s'améliorer quand même. Puis à un moment donné, je fais « Ah, il reste 7 minutes, faut que je m'en long de la musique. » Puis là, Antonine, tu m'as donné des napperons de la Constitution. Fait que là, je suis full énervé.
Ouais, c'est des beaux napperons pour toi.
Ben, c'est ça.
Je sais pas, les gens ont appris c'était quoi des napperons lors de la
avec
commission
la
Galant?
Ah, je les ai mis là, les napperons. Ouais, c'est
ils,
ça.
Ils
avec
cherchent
la
les napperons
Galant.
Partout, mesdames et messieurs.
Ah, portrait du Québec.
Vous devriez y voir la face. Ceux qui ben, en fait,
on est
live
sur
Twitch.
On est sur Twitch.
Si vous voulez voir le beau sourire de Jeff, ça vaut 100$.
C'est le fun au vote. J'ai mis une napperon de la Constitution. C'est plate, tu vas manger au resto avec Val à soir, fait que je pourrais pas manger sur le napperon de la Constitution. Mais en fin de semaine, on reçoit la mère à Val, souper fondu pour sa fête vendredi, fait que je préfère plastifier les napperons de la Constitution.
Hey, ça, là, ça fait des belles discussions
ben,
autour de bonne
oui,
fondue.
Là, on parlerait autour de la fondue. T'en penses quoi, toi, de la
est-ce que t'es plus pour la constituante ou tu penses
moi?
Que la doctrine gérer la joie oui. devrait être intégrée dans
exactement.
Le projet constitutionnel du ministre de la Justice?
Hey, savais-tu qu'en 2024, il y a 8,5 naissances par 1000 habitants.
Ben voyons donc,
oui. Ben oui, hey, ça nous ferait des belles... Ah, pourquoi la Constitution? Pour renforcer l'égalité entre les femmes et les hommes. Et hey, puis on partirait sur une discussion, l'égalité homme-femme.
Tu nous enverras des photos de votre souper avec les beaux petits napperons.
Ah oui. Ah, t'en penses quoi, toi, de... Dans notre Constitution, on veut protéger les lois fondamentales du Québec en interdisant que l'argent des contribuables serve à les contester devant les tribunaux. Ah tiens, on s'attaque à la FAE.
Hey, pas politique, pas tout. Pour les gens qui comprennent pas c'est quoi un napperon, c'est comme un... C'est un document gouvernemental qui résume un projet de loi, une politique, un programme, un plan d'action, peu importe. Et c'est
en
très visuel,
ça.
C'est facile à comprendre pour nous, les gens des médias.
Mathias, comment ça va en cette journée de la Constitution?
Ça va très bien. Ça irait mieux si le Canadien avait gagné hier.
Ah oui, écoute, mauvais début de saison du Canadien. Donc, l'Antonine, tu vas aimer ça?
L'heure est grave.
Oh my God!
On est rendu avec notre teaser Ruba Gazal. Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie, les amis?
L'heure est grave.
Ruba vous le dit. L'heure est grave. Ah, j'aime ça. Est-ce que vraiment l'heure est grave pour le Canadien? En tout cas, l'heure n'était pas grave pour lui.
Qui remet la rondelle de l'autre côté pour Doc. Et Doc qui a perdu le disque. Revirement jusqu'à Gallagher. Le tir, arrêt, le retour, le tir.
L'ancien rempart qui a marqué son premier but avec le Canadien hier, mais ce fut insuffisant. Défaite du Canadien 5-2. Deux buts dans un filet désert pour les Leafs en fin de match. Mathias, t'as pensé quoi du match du Canadien de Montréal contre les Leafs?
On a eu un excellent match. On a vu beaucoup de choses encourageantes. T'en parles, Zachary Bauduc, qui a eu un excellent match. De mon côté, mon coup de cœur, ça a été duo Mike Matheson et Noah
tellement
Dobson.
Tellement d'accord. J'ai écouté ça avec mon ado Edou, puis tout le match, Edou disait, ils sont donc bien bons les deux. Contrôle
vraiment.
Donc rondelles, sont donc bien rapides. Et j'étais d'accord avec lui.
Dès le moment où on rentrait en zone offensive et que c'était ces deux joueurs-là, ces deux défenseurs-là à la ligne bleue, on s'installait, on gardait la rondelle en dedans et on créait d'offensive. Gros match pour Mike Matheson. Pour vrai, il y a beaucoup de personnes qui doutent de lui constamment.
Ouais.
Pourtant, ça reste un élément extrêmement efficace dans l'alignement du Canadien de Montréal. Également, bon, on a eu un bon match en général. Là. Si on enlève les buts déserts, c'est une
exactement.
Défaite de 3-2.
Puis un peu malchanceux avec les deux défenseurs qui perdent leur bâton sur le troisième but. Donc, j'avais jamais vu ça. Vous en avez pensé quoi d'ailleurs? 4-1-8, 9-7-1, 102-1. Bon match, belle rentrée pour le Canadien malgré la défaite.
Oui, puis le deuxième but aussi qui était un mauvais rebond sur un joueur qui a donné un retour, qu'une rondelle, Montembeau pouvait pas voir la rondelle. Donc, tout de même, une bonne rencontre pour Montembeau également. Là, faut le souligner.
Il a fait des bons arrêts.
Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est l'avantage numérique. Parce que j'ai fait tout un saut quand j'ai vu notre alignement en avantage numérique.
T'es-tu comme Maxime Lapierre qui, après la deuxième période, a dit « Ça y est, je commence déjà à chialer, je veux des Demidov sur le powerplay. »
Oh my God, non, mais pour moi, il y avait deux choses qui ne marchaient absolument pas sur le powerplay. Slafkovski, sa place sur le powerplay du Canadien, c'est devant le filet. C'est pas à la pointe droite, c'est devant le filet. C'est un gros bonhomme. Il a bien fait devant le filet la saison dernière. Je comprends pas pourquoi on cherche à le changer. Deuxième chose, Demidov doit être, lui, sur la pointe droite. Il est rapide, il a de bonnes mains, il a un bon lancer, il a une vision du jeu exceptionnelle. Rien contre Zachary Bauduc, qui a eu une excellente rencontre. Mais pour moi, Demidov doit rentrer sur le premier power play. Zachary Bauduc doit descendre sur le deuxième, puis on doit ramener Slavkovski devant le filet.
Et voilà, Antonine, je suis certain que tu es d'accord avec ça. Toi, Antonine, es-tu d'accord que c'est drôle qu'on appelle ça le napperon de la Constitution? C'est Stéphane qui nous écrit quand le napperon, ça s'approche dangereusement à ce que représente la gestion de certains projets slash satellites.
Oh, écoute, là, vous êtes cynique, là, parce que ces napperons-là, ça sert pas à gérer, ça sert à nous sursimplifier l'information, okay, puisqu'on est nono dans les médias.
Mais est-ce que les indicateurs sont les bons? Parce que sur les napperons, ça clique. C'est-tu vrai que la superficie du Québec est 22 % en eau et 78 % en terre?
Ça, c'est assez factuel.
OK, ça va être vrai, ça.
Je veux juste aussi préciser que contrairement à
Le drapeau du Québec est un fleur d'Élysée. C'est-tu vrai, ça?
Oui, ça, c'est
OK,
vrai,
ça aussi.
Ça.
Fait que l'indicateur est au vert
c'est
pour
au
ça.
C'est au vert. T'as un petit bonhomme sourire vert pour ça. Mais je veux juste dire que ça coûte pas une scène. Hein. Tout ce qui est écrit sur ces napperons-là, contrairement à sa clique, là, il devrait pas avoir de dépassement de coût concernant la Constitution. C'est quand même bien.
Parfait. Ah, je suis vraiment.
Mais je suis
déçue
que tu me demandes pas mon avis sur le match.
Comment t'as trouvé le match? Mais je sais que toi, t'as animé un débat à Laval puis que t'as vécu une période de questions houleuses des spectateurs.
Oui, moi, j'avais moi-même mon propre match de hockey à gérer avec des quelques petites personnes qui pensaient qu'il y avait un complot pour garder le monde dans leur maison à Laval. Là.
C'est ça. Je fais une parenthèse, là. On fait quoi avec ces gens-là trop intenses?
Bon,
ou complotistes, je veux dire, parce que...
deux heures, parce que j'ai passé, depuis la pandémie, beaucoup de temps à penser à ça, étant donné qu'on a quand même des gens un peu capotés qui prennent plus de place sur les médias sociaux qu'à une autre époque. Juste mise en contexte, là, c'est qu'il y a une dame qui... J'animais mon débat et tout ça avec les candidats à la mairie, puis il y a une dame qui s'est mise à intervenir de façon tonitruante dans l'auditoire. Puis elle disait, je veux poser des questions, puis tout ça. Puis elle était en Facebook Live en même temps. Avec là, elle faisait son show pour ses abonnés.
Ouais, pour ses amis, là, exactement.
Moi, je pense qu'il faut donner des soupapes à ces gens-là. Fait que je suis pas du genre à dire, taisez-vous, tu sais, c'est comme...
Ben non,
votre
ça
point,
prend la liberté d'expression.
Mais après ça, quand c'est fini, genre...
Ouais, c'est ça, parce que c'est rarement fini.
Non,
c'est
non,
ça,
mais c'est ça. Mais
c'est
moi,
comment contrôler ces messages-là.
J'ai été attachée de presse pendant plusieurs années puis à contrôler des hordes de journalistes qui voulaient toujours poser une troisième, une quatrième question.
Ben voyons donc, on fait jamais ça. Quand l'attaché de presse dit dernière question, on crie jamais tout le monde notre dernière question après la vraie dernière question.
C'est ça. Moi,
ça arrive, ça.
La quatrième et la cinquième question, quand j'ai dit que c'était terminé, ma stratégie, c'est de dire merci, merci, merci par-dessus la personne.
Ouais, il y a beaucoup d'attachés de presse qui font ça, d'ailleurs.
Pour faire une analogie de hockey, c'est un peu comme être un gardien de but, puis moi, ben ça passe pas. Quand j'ai décidé que la rondelle n'en passait pas, elle passe pas. Je veux juste vous dire, messieurs,
de même, Antonine Yacarini,
que généralement, je suis très go sport, puis que je sais pas de quoi de vous parler quand vous parlez du Canadien, mais j'ai quand même écouté une partie du match hier sur la route de retour.
Et t'en as pensé quoi?
Ben en fait, j'en pensais rien. Tout ce que vous avez décrit tantôt, j'étais comme, on dirait que j'ai rien vu de ça pendant le match. Il faut dire que c'était à la radio. Mais je me réveille à chaque fois qu'il y a un but. Je fais, il y a un but.
Yes.
Voilà.
T'as ta main inattentive. Et le but!
Et le but!
Hey, let's go, c'est nous autres. C'est nous qui a scoré.
Avant de passer au caucus Yacarini, il faut quand même terminer le sport avec ceci. The 1-2 pitch. Got him! Jeff Hoffman strikes out Cody Bellinger, and the Blue Jays have done it. They have knocked off the New York Yankees. They have won their first playoff series since 2016, and they are going to the American League Championship Series. C'est vrai, j'ai le napperon de la Constitution du Québec en main et la main sur le cœur pour mon Canada qui l'a emporté au baseball hier. Non, blague à part, très grosse victoire des Jays de Toronto. Il y a 5-2 à New York. Donc, il passe, on l'a entendu dans l'extrait, remporte une première série depuis 2016, passe en finale de la Ligue américaine. L'adversaire sera décidé dans un cinquième match entre Détroit et Seattle. Donc, ça va être très, 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 très plaisant à regarder du bon baseball. Hier, moi et Doux, on pitonnait entre le hockey puis le baseball. Puis là, à un moment donné, les Jays ont marqué 2 points, prendre les devants 4-1, on sautait. Et je profite, c'est vrai, j'ai dit à Val que je profiterais souvent de l'occasion qu'elle s'entraîne à midi pour dire des niaiseries. Ben, hier, elle avait son gilet du Canadien, Cole Caulfield, sur le dos. puis quand elle a son chandail du Canadien sur le dos, je dis « Ah, t'es lettre! » Mais c'est pas vrai, elle est belle avec son chandail du Canadien.
Ben voyons donc.
Jeff, il s'isoche. Hein? Sur l'heure du midi, Val... Ah, Val est pas à l'écoute. Il s'isoche, je suis lousse.
Il se lâche lousse. Écoute, ça lui fait du bien. Ça, on devrait te faire un jingle. C'est comme...
Ah, c'est vrai? Je me lâche lousse.
Jeff ventile ou quelque chose
de
même.
T'as raison.
Mais si je comprends bien, quand t'apportes son gilet de Caulfield, ça porte malheur.
Ben là, c'est parce que hier...
Faut plus qu'elle porte.
Non, c'est ça. Hier, elle avait son gilet de Caulfield. Puis mes deux gars se sont mis à prendre pour le Canadien l'an passé parce que j'avais réussi mon rôle paternel à la perfection, alors que même s'ils n'avaient jamais connu les Nordiques, eux, ils étaient comme leur père. Ils détestaient le Canadien parce qu'on avait déjà eu les Nordiques jusqu'à l'année passée. Quand là, Hudson est arrivé,
des vraies girouettes.
Ouais, fait que là...
Puis, excuse-moi, mais tes girouettes en titi, parce que là, tu prends pour Montréal pour le hockey.
Non, là, non, je prends pas pour Montréal, moi.
Ah, OK, c'est juste ta blonde.
Oui, c'est ma blonde et mes enfants. Okay. Mais là, hier, imagine, les trois avaient leur gilet du Canadien.
Mais là, tu prenais-tu pour le Toronto hier?
Ben oui, je prenais pour Toronto.
Ah, Seigneur.
Dès que les livres sont marqués en partant
c'est
quoi game,
qui
j'ai
le
fait. Yeah! Puis là, je leur tendais à la main pour qu'ils me tapent dans la main.
Je viens de comprendre, vraiment
pas content. Mais j'ai vécu un moment très particulier aussi parce qu'en écoutant le hockey, à un moment donné, là, l'épaule de mon gars de 15 ans s'est rapprochée. Puis là, moi, il fait ça même. Il était à 15 ans, il colle plus leur père.
Non,
là.
C'est vrai.
Là, on était épaule à épaule.
Ça vous a rapproché.
D'après moi, il essaye de me faire prendre pour le Canadien.
Ah, ça doit être ça.
On a bien hâte de voir. Bon, c'est l'heure de passer. Oh!
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonine Iaccarini.
Le caucus. C'est du lundi au jeudi, de midi à 12h30. On l'a retardé un petit peu parce qu'on s'est fait un peu de fun avec le sport et avec les napperons de la Constitution. Mais les napperons de la Constitution, ça tombe bien parce qu'on va parler de Constitution. Antonine, c'est-tu vrai que François Legault veut passer à l'histoire et c'est pour ça qu'il nous fait une Constitution?
Peut-être. C'est historique. Faut quand même le dire. Une constitution, c'est pas banal. C'est comme la loi suprême d'une nation. Il y a des pays qui en ont pas, en passant, des constitutions. Il n'y a pas de constitution au Royaume-Uni, par exemple. Il y a des textes qui sont fondateurs, comme la Magna Carta et des choses comme ça. C'est pas obligatoire, mais c'est vrai que c'est historique de déposer un projet de constitution. Moi, je trouve que le vrai moment de l'histoire, ça va être le jour où elle sera adoptée.
Exactement.
Et je me demande si ça va être cette année ou si ça va devenir une proposition électorale.
Parce que là, tantôt, j'écoutais les réactions puis je me dis, il n'y a pas grand-chance qu'elle soit... Ben, elle pourrait être adoptée par la CAQ, mais tu sais que les autres partis soient derrière ce projet de constitution.
Il y a un enjeu énorme si la CAQ est seule avec ça. Ça peut
exactement. Pas. Exactement. Ça ne peut pas être partisan, une constitution.
Absolument pas. Puis, il y a des éléments qui sont partisans à travers tout ça. T'sais, pour moi, les valeurs fondamentales, il faut que ce soit les valeurs qui font consensus. Mm-hmm. Pas majorité. Consensus. Non. Et il y a une différence entre les deux, c'est-à-dire que si tu n'as pas l'aval d'à peu près tous les partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale, et ça irait même un peu plus loin, parce que il y a des gens qui ne se sentent pas représentés. Donc, il faut que ce soit vraiment un socle commun. Puis quand je vois qu'on inclut là, la question de la clause dérogatoire, là, l'usage de la clause dérogatoire préventivement, et la question de la contestation de notre loi sur la laïcité, qui est comme incluse à travers ça, on ne veut pas que le fédéral utilise de l'argent pour contrer nos lois, finalement. Je ne suis pas convaincue que ça a d'affaire dans un projet de constitution.
Mais moi qui est très pro-laïcité, la laïcité ne fait pas consensus.
C'est pas un consensus, c'est en fait, il y a un consensus autour d'une certaine forme de laïcité, mais après ça, la définition de ce que c'est la laïcité peut varier d'un parti à l'autre.
Oui, en effet, c'est plus là, exactement.
Mais il y avait un consensus. C'est même les libéraux et Québec solidaire, la question de ce qu'on appelle le consensus Bouchard-Taylor. Donc, il y a un consensus que l'État québécois est laïque, donc on n'a pas de religion. Mais après ça, là, qui porte des signes religieux ou c'est interdit, tout ça, ça demeure du côté le plus de la politique.
Exactement. On écoute la réaction de Marois Risky par rapport à ce projet de constitution présenté par Simon Jolin Barrette ce matin.
Est favorable au principe d'une constitution du Québec. Ses militants ont même adopté une résolution cadre en ce sens à notre congrès des membres en novembre 2024. À cette occasion, le chef de notre formation politique, Pablo Rodriguez, a clairement signifié que malgré le fait qu'il considère un tel projet comme étant important et viable, que nos priorités devaient rester celles des Québécoises et des Québécois, c'est-à-dire l'économie, le logement, l'éducation et la santé.
Bravo.
Alors voilà, donc on ramène avec le fait que le Parti libéral est pour une constitution, mais qu'à l'heure actuelle, ça ne fait pas partie de leurs priorités. Donc, façon de s'en dégager un peu.
Oui, mais c'est un bon message parce que, veux pas, nous, là, ça nous passionne, là, les napperons de la constitution.
Ah ben oui, regarde.
Mais la plupart des gens, ce qui les intéresse, c'est comment ils vont payer leur hypothèque puis leur loyer
ben,
dans la
justement,
prochaine année.
On a un auditeur qui nous écrit, ben écoute, François Legault va passer à l'histoire parce qu'on va se rappeler les déficits et l'argent perdu dans les projets de ton terrain. Un milliard là, hier avec le 400 millions dans Airbus. Alors, c'est beaucoup plus ça présentement que les gens regardent la Constitution.
Non, c'est ça. Mais M. Legault est déjà passé à l'histoire. Il est dans les livres d'histoire pour toujours. Il a fait des choses historiques.
Ministre.
Tout est historique dans la vie. Sauf que c'est vrai qu'une Constitution, ça a un caractère extrêmement solennel. Mm-hmm. Je reviens à la réaction de Marois Risky. Oui, de revenir sur les priorités des Québécois, c'est facile et on comprend. Mais le Parti libéral a proposé aussi une Constitution du Québec là, il y a plus d'un an. Puis même avant, il y avait leur commission politique avait proposé cette idée-là. Ça sortait un peu de nulle part à ce moment-là, mais il y avait une motion aussi qui avait été adoptée par l'Assemblée nationale en 2021. Fait que les gens qui pensent que François Legault sort ça de son chapeau pour se faire des points politiques parce qu'il est désespéré et son gouvernement est en déroute. La réalité est plus nuancée que ça. Là. C'est un projet qui est dans l'air depuis longtemps, la Constitution du Québec. Ce qui est le plus dur, c'est de faire comprendre aux gens qu'est-ce que concrètement ça va changer dans leur vie. Mm-hmm. C'est un petit peu plus compliqué.
Oui, en effet. Pascal Paradis avait cette réaction-ci.
21 demandes dans le programme de 2015 de la CAQ à l'intérieur du régime fédéral. Résultat des courses après 7 ans, zéro. Rien. Des outils pour la protection du français? Non. Nomination des juges québécois à la Cour suprême? Non. Transfert de points d'impôt aux provinces? Non. Transferts fédéraux, financiers? Non. Rapport d'impôt unique? Non. Rapatriement des budgets culturels fédéraux? Non. Prépondérance du Québec en matière de langue, d'immigration et de culture? Ben non. Reconnaissance constitutionnelle du Québec comme nation? Non. Encadrement du pouvoir fédéral de dépenser dans les champs de compétences du Québec? Non. Bilinguisme obligatoire pour les juges de la Cour suprême? Non. Droit de veto du Québec?
Non.
Non. Abolition ou réforme du Sénat? Non. Abolition de la fonction de lieutenant-gouverneur? Non. Il y en a même qui l'ont applaudi, qui l'ont ovationné ici il n'y a pas si longtemps. Alors, c'est ça, le bilan. Et au lieu de tirer des conclusions et de dire « ça ne fonctionne pas, on l'a essayé, ça ne fonctionne pas », donc, la solution, c'est l'indépendance du Québec. Ben non, on s'entête. On attend encore le grand soir. Le grand soir où le fédéral va nous dire oui, va
J'aime ça qu'il renverse le grand soir, c'est le jour où le fédéral va nous dire oui. C'est bon, ça, c'est bon.
Mais tu sais, honnêtement, il y a des choses dans ces noms qui peuvent être discutables, on s'entend. Là. Mais dans le fond, le Parti québécois, eux vont dans la tranche de la Constitution, ça vient avec la souveraineté, ça vient avec un pays. Puis là, PSPP est encore frustré. Il est frustré de quoi,
oui,
notre Paul Saint-Pierre Plamondon? Là?
Bon, d'abord, juste la réaction du PQ là, pour commencer. Ben, c'est sûr que la position du PQ est plus simple à comprendre que celle de la CAQ. Okay?
Ben,
la CAQ,
clairement, là.
C'est très nuancé, c'est l'autonomisme, ça, c'est moins binaire que oui ou non, fédéralisme, souveraineté. Mm-hmm. Donc, le PQ joue son jeu et c'est bien correct. Aussi, ce qui aide le PQ, c'est que c'est vrai que la CAQ étant en difficulté, on devrait être capable de rassembler les gens et les partis autour d'un projet de constitution. Ça n'arrivera pas là, dans le contexte politique actuel. Il n'y a personne qui va faire de cadeaux à Simon-Jolin Barrette en ce moment. Ça n'arrivera pas.
Non.
Mais oui, Paul Saint-Pierre, à mon nom, est fâché parce que, ben, premièrement, tout le monde est un peu dubitatif face au manque de consultation autour du projet.
Ben, en effet, parce que, tu sais, oui, la CAQ en avait parlé, mais ça sort quand même de nulle part présentement parce que je suis bas d'un sondage, que sais-je que je pourrais bien faire pour monter?
Oui, mais je trouve que ça arrive...
Je m'excuse d'être cynique.
Non, non, mais c'est correct. Mais je trouve que ça arrive tard dans le mandat. Moi, je sais que c'est dans les cartons depuis longtemps, cette affaire-là, puis qu'un gouvernement ne peut pas tout faire dans les 4 premières années, je le dis souvent. Maintenant, quand Simon-Jolin Barrette a été interrogé là-dessus ce matin, il disait « Ben oui, je les ai consultés, je les ai rencontrés le 5 août dernier.
» Oui, il y a une différence entre « je vous rencontre pour vous en parler, puis je vous consulte, puis on fait des modifications dans la Constitution. »
Ben, c'est parce que ça se fait pas sur le coin d'une table en une journée, une Constitution, je crée bien. Fait que je pense pas que ce soit considéré comme on a été impliqué comme des parties prenantes du projet. En tout cas, moi, si j'étais un des partis invités, je dirais « body, là, non. Tu nous as pas impliqués dans le projet, tu nous as rencontrés pour nous expliquer c'était quoi ton projet. » Donc, puis là, Paul Saint-Pierre Plamondon, en plus, est fâché parce qu'il est pas là aujourd'hui.
Ouais. Mais Paul Saint-Pierre Plamondon le dit d'entrée de jeu à l'Assemblée nationale, je serai pas toujours là parce qu'il faut que j'aille recruter du monde. Fait que là, François Legault, ben c'est ça, François Legault peut pas dire ouais,
la terre arrête de tourner.
Hey, puis dring dring, salut PSPP, est-ce que t'es là jeudi? Non.
J'aimerais coordonner nos agendas.
Bien, je vais attendre de bord. Je m'excuse d'avoir pensé de faire une constitution jeudi. Salut là, à un moment donné.
Ouais, puis les informations étaient partout dans les médias que ça allait probablement sortir aujourd'hui. Absolument. Ou au cours de la semaine. T'as dit que dans le contexte actuel politique, c'était impossible que toutes les parties s'enlignent. J'aimerais pousser la réflexion plus loin. Selon toi, dans le contexte politique qu'on vit, le contexte politique moderne, pas actuel nécessairement, juste un contexte politique moderne, est-ce qu'on pourrait voir toutes les parties à l'Assemblée nationale vraiment s'aligner un jour sur un projet de constitution?
En fait, je pense que oui, si c'est un projet qui est relativement simple. Donc, comme je disais tantôt, là, des socles communs dans lesquels on ne met pas d'éléments qui peuvent être attribuables à de la partisanerie. Je voyais certains contenus là, sur nos napperons, nos beaux napperons. Par exemple, protéger le libre choix des femmes. Ça, c'est quoi? C'est la question de l'avortement.
Oui.
C'est politique. Puis, au Canada, on n'a pas de loi qui encadre ça. C'est pas inscrit dans la loi. Pourquoi? Parce que c'est des décisions des tribunaux qui ont amené ce droit-là.
C'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Chant du pays, c'est votre tour de vous laisser
parler. Ça, c'est fin, par exemple. C'est d'habitude, tu chantes l'hymne canadien de manière tonitruante. Et là, tu nous as mis notre genre du
pays. Ben, on parle de la Constitution du Québec.
Ouais, mais là, je parlais d'avortement, là.
Ben, au Québec, on est pro-avortement.
Ben, c'est ça l'affaire.
Hein? Qui est pas pro-avortement au Québec?
Il y en a du monde qui sont contre l'avortement. Oh, ben... Puis si tu rentres ça dans une loi, qu'est-ce qui peut arriver? Ben, un parti politique pourrait changer la loi. Alors que de changer des jurisprudences des tribunaux, c'est beaucoup plus compliqué.
Tellement raison.
On considère que les droits des femmes sont mieux protégés en l'absence d'une
de
législation.
Loi avec la jurisprudence. Hey, j'aime ça, le comment t'amènes ça.
Donc, tout ça pour dire que ces éléments-là, est-ce qu'ils doivent nécessairement se retrouver? Est-ce que de dire, nous, on est pour l'égalité homme-femme et le libre choix? Bon, tu sais, il faut garder les choses assez générales. Après ça, la question de la laïcité, on en a parlé, ça peut varier d'une personne à l'autre. Moi, par contre, ce que je trouve très intéressant dans le contenu, c'est la question des droits collectifs versus individuels. Parce que ça fait partie vraiment de la différence culturelle entre le Québec et le reste du Canada. Quand on dit toujours la Charte canadienne des droits, la sacro-sainte Charte des droits, et que des fois, nos lois sont contestées parce qu'elles rentre en contradiction avec la Charte des droits. C'est pas qu'on veut nécessairement toujours brimer des droits individuels, mais c'est qu'on considère qu'il y a aussi des droits collectifs. Mm-hmm. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très mal compris dans le reste du Canada, mais qui fait notre différence. Et je pense qu'il y a un certain consensus, pas nécessairement l'usage qui est fait de la CAQ ou du PQ selon les libéraux, mais sur cet élément-là qu'on a un vivre ensemble qui est un peu différent.
On a un excellent texto qui est rentré par Twitch. Allô, est-ce que je suis le seul à penser que cette histoire de constitution, c'est juste un nuage de fumée pour nous faire oublier que tout le reste va mal. Pendant ce temps-là, on ne parle pas des vrais problèmes.
Bien, c'est le sentiment qu'on ressent en ce moment. Hein? C'est que les gens se disent ça fait un peu déconnecté parce qu'on a une crise. Économiquement, ça va pas bien. Le gouvernement est dans la chenoute. Il y a toutes sortes de fiascos, etc., etc. Par contre, moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il va toujours avoir des crises. Il y a toujours quelque chose de plus important qu'écrire la Constitution.
Je suis très d'accord.
Et qu'on est capable de faire plusieurs choses en même temps. En plus, pour vrai... C'est pour le gouvernement, ça, c'est parfait. Ça coûte pas une scène.
Non, exactement. Puis on est capable de marcher et de mâcher de la gomme en même temps, comme disait Claude Villeneuve. OK, Antonine, on change de sujet parce que...
L'heure est grave.
L'heure est grave. Pourquoi? Parce que Doug Ford a recommencé à chicaner avec Mark Carney.
If he wants to destroy our auto sector and destroy our steel sector and for Quebec, the aluminum sector... There won't be a grain of critical minerals going south of the border.
The fate of these talks. Il est fâché, notre ami Doug. Il a pas aimé que Mark Carney agisse copain-copain avec Donald Trump parce qu'il disait, hey, là, Trump veut m'enlever mes chars, il veut m'enlever mon acier, il veut enlever l'aluminium au Québec. Puis là, Mark, il est prêt à y donner nos minéraux critiques. Non, ça se passera pas de même. L'unité canadienne. est en train de flancher face à Donald Trump.
C'est une des plots de banane sur le chemin de Mark Carney vers le grand succès et les intentions de vote et les sondages de satisfaction, parce que c'est difficile de faire plaisir à l'Alberta, à l'Ontario, au Québec, ouais, en même temps.
Qui ont des visées différentes. Là.
Et à Donald Trump.
Oui, et qui ont des visées différentes et des économies différentes. T'sais, pétrole en Alberta, acier, voiture en Ontario, puis aluminium au Québec. Puis j'ai été le premier à dire lundi, coudonc, crime, Mark Carney, qui a été élu en majorité au Québec, il travaille pas pour nous autres, il s'en va travailler pour l'acier, pas pour l'aluminium.
Donc, tu as raison, mais finalement, ce qu'on reçoit comme signal, c'est qu'on va peut-être en avoir des allègements sur l'aluminium. Mais bon, revenons juste à l'industrie de l'automobile en Ontario. Il faut comprendre que c'est une industrie, une chaîne d'approvisionnement et de production qui est ultra intégrée. Okay? Les pièces d'auto, s'il fallait vraiment tarifer chaque fois que quelque chose traverse la frontière, là, c'est incroyable.
Ah oui, parce que des fois, une pièce d'auto, ce que j'ai lu, c'est que ça peut faire 11 fois la frontière.
Donc, imagine si tu tarifes à chaque fois.
25. On est rendu à 275.
Donc, c'est vraiment un plan qui est très important aux yeux de M. Trump de ramener l'industrie de l'automobile et les emplois qui y sont associés. En Ontario, on parle de 100 000 emplois.
Ouais, c'est ça.
C'est énorme. Qu'on veut rapatrier dans les États de la Rust Belt, dans ces États qui sont parfois démocrates, parfois républicains.
C'est ce que j'allais dire. C'est très politique aussi, parce que Donald Trump a gagné la présidence grâce à ces États-là pivots.
Ouais.
Fait que là, on va travailler.
Et
c'est tout à fait normal qu'ils travaillent pour les États pivots, soit dit en passant.
Absolument. Mais quand on dit « Make America Great Again », on parle beaucoup de ces États-là dans lesquels il y a eu des années extrêmement difficiles. Et notre industrie de l'auto est tellement intégrée, et c'est un secteur qui est énorme pour le Canada. C'est un secteur qui a déjà existé un peu au Québec, mais qu'on a décidé vraiment de concentrer dans la région des Grands Lacs pour des raisons aussi géographiques. C'est énorme. Donc, Doug Ford, pour lui, ce secteur-là, c'est névralgique. Quand on s'attaque à ça, on s'attaque au cœur de l'économie ontarienne, et on sait que Doug Ford est un peu moins diplomate que Mark Carney. Mm-hmm. Il est très fort sur les menaces. Je vais vous couper le courant, je vais vous couper la potasse. On est rendu qu'on coupe les minéraux stratégiques. Et Donald Trump répond très mal à ce genre de menaces-là.
En effet.
Ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas grand-chose qui fonctionne, cela dit. Évidemment, de tout lui donner ce qu'il veut, ça ne peut pas non plus être une option. Puis là, on se retrouve avec, on va se faire détruire notre secteur de l'automobile. On a des tarifs sur nos secteurs stratégiques en métallurgie au Québec. Et il y a la question de l'énergie qui est très importante dans l'Ouest. Si la Colombie-Britannique ne veut pas avoir un pipeline qui sort du pays vers l'Ouest, bien là, on a un nouveau débouché possible, parce qu'on a entendu hier, Mathias, tu nous en parlais, que le pipeline Keystone XL serait réanimé. Ça, c'est très bien pour l'Alberta qui est bien contente de vendre son pétrole, mais c'est pas très bien pour la diversification de notre économie. Donc, Donald Trump est mort de rire, là, vous comprenez? Dans le fond, il va recevoir du pétrole, puis il va avoir son pipeline bien content de ça. Il va détruire notre industrie de l'auto, même si ça fait des vagues, même si ça va monter les prix pendant un bout de temps. Il va dire, moi, j'ai rapatrié les entreprises américaines qui fabriquent des autos, parce que c'est pas des entreprises canadiennes en
non,
passant.
Non, exactement.
Là, elles reviennent à la maison. Et il va nous faire un petit cadeau. Il va enlever un petit peu de tarifs sur l'aluminium, mais pas trop, puis pourquoi pas les remettre dans 6 mois, parce qu'on s'en fout.
Ouais, puis un petit peu sur l'acier.
Mais il y en a besoin de notre aluminium. Il y en a pas d'aluminium.
Non, c'est ça. Il pas capable d'en produire, il n'y a pas assez d'énergie pour en produire, puis il n'y a pas d'entreprise qui en produit.
Puis là, tu vas baisser les tarifs sur l'aluminium, le monde va dire, mon Dieu, quelle excellente nouvelle. Puis là, les exportations vont reprendre vers les États-Unis,
ouais,
puis on va arrêter de chercher des nouveaux débouchés. Il est mort de rire.
Ben oui,
puis... Il est de bonne humeur, d'ailleurs.
Exactement. Et n'oubliez pas une chose, c'est que oui, Donald Trump a cette politique protectionniste-là, mais le prochain président qui va arriver, il n'aura pas le choix de continuer dans cette veine-là.
De toute façon, les démocrates aussi sont
protectionnistes. Ben oui, ils sont
protectionnistes.
Je me souviens d'avoir parlé avec Pierre Paulus qui m'avait dit, écoute, peu importe ce qui arrive, et c'était avant l'élection, là, Kamala Harris ou Donald Trump, il m'a dit, ça va être soit pire ou bien, bien pire pour le Canada.
Mais Joe Biden était réputé comme étant quelqu'un d'assez protectionniste. Par
Exactement.
Contre, il ne remettait pas en question des vaches sacrées et il ne remettait pas en question l'accord de libre-échange entre les trois pays d'Amérique du Nord. Cela dit, M. Trump est de très bonne humeur cette semaine. D'ailleurs, il a complimenté notre premier ministre.
Oui! Ah.
Il ne nous donne rien, mais...
Canada est full hot.
On est
tout
hot.
Le kit.
Ouais.
Mais Donald Trump est de bonne humeur aussi pour cette raison-là, Antonine.
Everyone says that I should get the Nobel Peace Prize for each one of these achievements.
The letter I sent to the Nobel Prize Committee, it's nominating you for the Peace Prize, which is well deserved.
Will you get the Nobel Prize? Absolutely not. They'll give it to some guy that didn't do a damn thing.
Donald veut son prix Nobel. On devrait le savoir. C'est quoi? On va savoir à soir, là, si
c'est
le prix
demain.
Nobel. Demain?
Ben, je peux te le dire tout de suite, il gagne pas, là.
Non!
Ben,
là, ben voyons, c'est fini, Gaza.
On dirait que c'est rigged, là, mon affaire, puis que j'ai des sources secrètes. Ben non, mais pas de sources secrètes.
Voyons
donc,
okay? C'est fini, Gaza.
Ben oui.
Mais pourquoi il ne gagnera pas le prix Nobel?
OK. Premièrement, c'est vrai que c'est une bonne nouvelle ce qui se passe à Gaza présentement. Et c'est vrai qu'il a joué un rôle de leadership dans
exactement.
La question. Donc moi, je serais prête à lui donner un méritage. J'ai apporté un trophée, d'ailleurs,
vous
ne voyez pas.
Ah, ouais! Attends, on va le montrer sur Twitch.
Tiens.
Ah, regardez. Puis, c'est le Nobel de Donald Trump.
Oui, c'est le prix, en fait, prix méritage de participation pour Donald Trump. Parce que c'est vrai que c'est une bonne nouvelle. Entente de paix annoncée à Gaza qui prévoit un cessez-le-feu, libération d'otages, retrait des troupes israéliennes et des discussions sur le désarmement du Hamas. Donc, c'est des choses qui sont toutes souhaitables.
Ah, toutes souhaitables et très, très bien. En passant, t'as mis un petit ruban aux couleurs des États-Unis.
T'as remarqué, hein?
Ah, Anthony.
OK, il faut que je dise la vérité. Ça, c'est le trophée de la Ligue de Kossoum de mon chum, en fait.
Pour de vrai?
Ça s'appelle la Coupe Vallière.
Ils ont gagné?
Ben, ça dépend, c'est gagné de différentes façons à chaque année, mais là, il y a le trophée pour l'année. Là.
Mais là, le problème, c'est que si tu veux l'envoyer à Donald Trump, pour qu'est son prix?
On va en acheter un autre chez Dollarama.
Parce que Canada ne fonctionne pas.
Ah, c'est vrai.
Là, t'es dans le trouble.
Ouais, je vais le donner à Dominique Leblanc. Il l'apporte
à
Washington.
Ah oui, Dominique va l'amener à Washington. Exact. Il va dire, tiens, M. Trump, c'est de la part de BLVD 102.
Puis Donald Trump, il aime les choses qui brillent et qui sont dorées. Fait que je pense qu'il va bien aimer recevoir
avec le ruban, en plus.
Un prix. Puis on va lui dire, c'est plus haut que le prix Nobel, Donald. Là. C'est comme un...
C'est le prix boulevard.
Le gagnant, là. T'sais, il va être vraiment content. Mais non, les chances sont faibles. Mais rarement on a vu quelqu'un faire une campagne publique aussi
pour
agressive.
Avoir prix
pour
Nobel.
Avoir un prix.
Ouais,
Nobel.
Mais c'est parce que Obama l'avait eu en 2009.
Exactement.
Tu sais, ce qui était discutable aussi pour Obama, parce qu'on s'entend, il faisait des beaux discours, puis il changeait la façon de faire de George W. Bush, mais il n'avait pas nécessairement fait d'action qui méritait un prix Nobel.
Écoute, ça se discute, je suis d'accord
c'est
avec
ça.
Toi, puis ça gosse bien, bien gros notre ami Donald Trump, que Barack Obama en ait eu un et lui, non. On rappelle aussi que Donald Trump avait plaidé qu'il a mis fin à 7 guerres depuis son arrivée
oui,
à la maison.
Oui, je les ai nommés dans Marceau le matin, puis ben disons que...
Il y en a qui sont pas des guerres, premièrement.
C'est ça.
Il y en a qui sont pas finies, puis il y en a une que c'est lui qui a... commencer en envoyant des soldats en Iran.
Ouais.
Ben, c'est lui, il l'a arrêté après. Oh, c'est vrai.
Ben, il l'a arrêté, il a anéanti l'Iran.
On va y donner.
Mais en gros, on peut. La raison pourquoi Donald Trump a mis comme date cible en disant à Gaza, c'est dimanche.
Là.
C'est dimanche la date limite. C'est dimanche que vous devez avoir signé ce traité-là. Est-ce que ça pourrait justement être pour que juste avant la remise du prix Nobel, Donald Trump dise hey, la guerre à Gaza s'est réglée à cause de moi.
Je trouve que c'est un peu proche du deadline.
Ouais, c'est un drôle d'hasard.
Parce qu'il faut savoir, les gens qui décident qui a des prix Nobel, c'est un comité de Norvégiens.
Ouais, ils sont genre 8, que j'ai compris.
5, je sais
plus,
5 ou 8. Puis d'après moi, ils décident pas comme 2 minutes avant de l'annoncer.
Ah non?
D'après moi,
je pensais
pas.
Qu'ils faisaient un pool, puis là, dans le chapeau, il y avait une autre.
Ils font des napperons.
Ah!
Puis il y a des petits bonhommes sourires dessus. Puis tout ça.
Ah oui, puis là, il marquait, mettons, Trump avec sur le napperon. Pourquoi ça serait lui?
Ben, ils ont eu leur dernière réunion ce lundi, justement.
Ah.
Le lendemain de dimanche, c'était
pu.
La dernière réunion.
Ça aurait pu.
Ça aurait pu.
Mais il y a plusieurs experts norvégiens qui sont... parce que c'est comme la Norvège, l'épicentre de la paix.
Pourquoi
là,
c'est le bastion de la paix, la Norvège?
Ah non, je ne sais pas. Pose-moi pas une question,
parfait.
Donc je ne sais pas la réponse. Mais il y a beaucoup d'expertise aussi en matière de relations internationales. Puis je lisais quelques experts dans des médias européens, puis ils disaient, dans le fond, les gens considèrent que Donald Trump ne met pas des conditions à la paix.
Mm-hmm.
Donc, même si tu arrêtes un conflit, c'est très bien, mais on considère que de l'autre côté, c'est politique internationale, puis sa manière de gouverner, en fait, met un contexte favorable à l'éclosion de
exactement.
Guerre et de
conflit. Et comme Yannick Marceau disait si bien ce matin, la guerre est prête à l'intérieur même de son pays.
Ouais, la guerre, c'est pas une raison pour se faire mal.
Mais une chose est sûre, s'il ne gagne pas le prix Nobel, bien Ruba Gazal va être contente parce que sinon...
L'heure est grave.
Antonine Iaccarini, merci pour le caucus, Iaccarini. Tu restes avec nous pour la prochaine demi-heure?
Oui, monsieur.
Excellent. Dans le prochain 30 minutes de radio, on va avoir un excellent dossier de Mathias Turcotte qui a assisté au point de presse de Bruno Marchand ce matin. Puis Mathias, je pense que même s'il y a un face-à-face à LCN entre Sam Hamad et Bruno Marchand ce soir, 19h, il y a un nouvel adversaire pour Bruno Marchand avec les derniers sondages.
On peut dire que l'ennemi numéro 1 a changé du côté du camp Marchand.
L'ennemi numéro numéro un a changé du côté du camp marchand. Je vous laisse deviner c'est lequel, mais son parti, l'acronyme est RC. Donc, vous aurez compris de qui on parle. Et également, on va faire un tour des nouvelles. On veut revenir sur la base de Valcartier où c'est facile de sortir des munitions. Sarah Maud Lefebvre, l'excellente journaliste de JE au niveau du groupe Québécois à TVA, a donné une entrevue à Mario Dumont ce matin et elle parle de crime organisé qui est autour de la base de Valcartier pour se munir d'armes dangereuses. Alors, c'est vraiment problématique ce qui se passe là-bas. On va en parler, évidemment. Après cette courte pause, vous êtes à l'émission On en jase sur les ondes de Boulevard 101. Tu fais bien de nous prévenir, parce que c'est vrai qu'on jase, et il est présentement midi 41. C'est ton bête préféré, c'est Antonine Yacarina. À chaque fois qu'il part, je te vois faire un petit mouvement de tête et d'épaule. C'est ton préf, celle-là.
Oui, ça me rend groovy.
Oui, il te stimule. À la météo, 10 degrés, 12 degrés au maximum, généralement ensoleillé. 14 degrés demain ensoleillé pour le long week-end. Samedi, dimanche, 17 degrés ensoleillé, 16 degrés ensoleillé. Moi, je vais ramasser des feuilles toute la fin de semaine. M'a travaillé dehors. On va, tu sais, être bien qu'une petite frette à partir de midi, évidemment. Toi, tu vas faire quoi de ta fin de semaine, Anto?
Samedi, on va randonner, nous, dans Charlevoix.
Quelle bonne idée!
Parce que j'ai pas encore profité des couleurs de l'automne et que je fais pas assez d'exercice physique.
Extraordinaire.
Alors, faut que je le mette dans mon agenda.
Ouais, extraordinaire idée. Peut-être qu'on va prendre un petit temps, mon pival. On va aller juste monter le relais avec ces boys. La vue est superbe,
absolument.
Les couleurs. Ouais, on va essayer de prendre ce temps-là. Matt, qu'est-ce que tu as prévu pour la fin de semaine? Vas-tu faire ta blonde au Saguenay?
Yes, en fin de semaine, je monte au Saguenay. Yeah. On va fêter ma fête une semaine en retard au Saguenay. Mm-hmm. Par la suite, ma blonde qui va redescendre avec moi ici pour la semaine prochaine. Étant donné que c'est sa semaine de lecture, sa semaine de relâche au Cégep. Donc, une belle fin de semaine à prévoir. Ça va faire du bien.
Mais hein, je suis très, 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 très content pour toi. Je te l'ai écrit d'ailleurs dans ton message de fête, comment tu prenais bien soin de ta blonde, puis que je trouvais ça beau.
Ah
oui, Matt, t'es un beau lover, j'aime ça.
Un lover.
Vous êtes deux lovers.
Ouais, je pense qu'on est deux lovers. Jeff, c'est un lover, sauf sur l'heure du midi.
Ben, non! Il y a comme deux minutes où il a besoin de ventiler, mais le reste du temps, il fait juste dire des belles affaires sur sa blonde.
Je dis toujours à ma blonde, c'est la plus belle.
Ben oui.
Tout le temps, tout le temps, tout le temps, je l'adore. Bon, vous m'avez déconcentré dans ce forêt. Juste vous dire que la meilleure façon de nous écouter, évidemment, c'est sur l'application au Boulevard 102.1. Et n'oubliez pas, les haut-parleurs intelligents, là, vous dites BLVD. Écoutez BLVD avec votre voix de robot. Puis ça fonctionne. On tombe directement dans les haut-parleurs intelligents. Bon, des fois, on n'est pas toujours intelligent en ondes, mais on est sur les haut-parleurs intelligents. Twitch.tv/BLVD/FM également. Vous êtes plusieurs à nous regarder via cette plateforme et à interagir. On adore pour interagir, évidemment, 418-971-1021. Et avant de passer au dossier de Bruno Marchand, il faut absolument que je vous parle de notre programmation de ce week-end pour le long week-end de l'Action de grâce. On prend ça plus relax avec un spécial rock and chill toute la fin de semaine. On garde l'esprit rock, mais en version plus chill, avec des tunes acoustiques, unplug, les grandes voix du rock et les balades des groupes forts de BLVD 101. Wow, ça va être exceptionnel. Le beau soleil, les feuilles, le rock and chill, une petite frette, parle-moi de ça. Tout le week-end, de 10 à 15 heures, la section musicale a été ajustée. Chris Cornell, Nirvana, du MTV Unplug, des versions acoustiques et des chansons qu'on entend plus rarement à BLVD. Douleur aux pieds et aux chevilles, c'est une présentation, ce beau spécial de l'Action de grâce, c'est une présentation de Pieds Réseau. C'est à Saint-Romuald et ongles incarnés, verrues plantaires, orthèses plantaires, bref, rencontrer un podiatre rapidement dans la même semaine. Alors, je vous invite à écouter notre très belle programmation musicale chill ce week-end sur les ondes de Boulevard. Mathias Olmert, étais-tu chill? 29 % dans le sondage, 18 % sa mamade, 15 on mène par 11, 13 % Stéphane Lachance, bon. Ça monte, mais j'ai encore 16 % d'avance. Puis Claude Villeneuve, qui est mon adversaire à gauche, il est bloqué à 5. Fait que j'imagine que le maire Marchand, quand il vous a reçu aujourd'hui, là, il était chill-out avec ses espadrilles, puis amenez vos questions, je suis en forme.
Bien, c'est sûr que oui. C'est sûr que du côté du maire Marchand, on est confiant. On continue de dire qu'il n'y a rien qui est gagné. Non, puis il dit, le moment de répit, ça va être la journée du 2 novembre. Puis il a bien raison, là, surtout dans une course électorale municipale, ça peut changer d'un instant à l'autre. Par contre, il y avait un ton qui était utilisé qui laissait sous-entendre très rapidement que l'adversaire premier avait changé, même si c'est sa maman de deuxième présentement dans les sondages. Le maire Marchand, il est allé tout au long de son point de presse de plusieurs attaques.
Il a parlé contre Stéphane Lachance.
C'est terrible. Attaque sur attaque sur attaque sur Stéphane Lachance. Par contre, on a commencé à parler, on a commencé le point de presse en parlant du tramway, de toute la situation qu'il y avait et de la concentration qu'il y avait eu justement au dernier débat à la Chambre des commerces du Québec.
Non, je pense pas. N'oubliez pas qu'il est à 13 %. Là. Donc, oui, il y a des gens qui veulent revenir en arrière. Il y a des gens qui veulent qu'il n'y en ait pas de tramway. Mais il y a une majorité de citoyens de Québec qui sont tannés d'en entendre parler. La quantité de gens qui sont venus nous parler depuis la discussion de la Chambre de commerce, depuis le débat à la Chambre de commerce, qui nous ont dit « On peut-tu passer à d'autres choses? » Et c'est ce qu'on entend dans le porte-à-porte, c'est ce qu'on entend des gens qu'on rencontre des événements, c'est ce qu'on a vu dans certains vox pop que vous avez réalisés. Des citoyens de Québec qui disent « On va-tu toujours revenir en arrière? » On va-tu toujours revenir en arrière? Et à chaque projet, peu importe qui le présentera, on sera toujours en train de débattre. Non, non, on revient en arrière, on revient en arrière. Monsieur Lachance nous propose ça. Nous, on propose d'avancer.
Tu sais quoi, Antonine? Je suis d'accord avec lui. Parce qu'on a parlé de tramway hier, puis je le disais, tu sais, peu ou pas de réaction de gens qui disaient « Ouais, non, un tramway. » À matin, j'en ai parlé également, puis zéro réaction de gens qui disaient « tu t'es pour un tramway, qu'est-ce que tu fais là? Ça coûte 7,6 milliards. » Les gens veulent un projet.
Ouais, ben ils veulent les aussi arrêter d'entendre parler.
Avance. Exactement.
Donc, ceux qui sont pro-tramway, ils veulent un tramway. Puis ceux qui, ben, soit que ça les intéresse pas le tramway ou qui étaient plus ou moins opposés, je pense qu'ils sont tannés aussi d'en parler. Ça se peut-tu?
En plein ça. Je pense que les gens à Québec veulent juste qu'il y ait des projets qui avancent.
Hier, là, je revenais de Laval et j'étais sur Laurier. Il y a les travaux préparatoires qui sont démarrés. Oui. Puis moi et mon chum, on regardait ça et on disait, ça serait, tu sais, c'est quand même des gros travaux très comme gossants là, pour les gens du quartier. Puis on se disait, ça serait quand même fou qu'on soit en train de tout faire ça pour finalement mettre des autobus là-dessus. Là. Sérieux, là.
C'est un bon point.
Ils sont commencés, les travaux, là.
C'est un bon point, puis je dois t'avouer, tu as une force de persuasion, Antonine Iaccarini, parce que hier, je te disais, moi, ça m'énerve qu'on fasse juste la première branche. Tu sais, moi, je me dis toujours, tant qu'à le faire, faisons-le. Puis je me souviens, quand la caisse de dépôt a déposé son plan cité, j'avais dit sur les ondes de boulevard, savez-vous quoi? C'est parfait. Go, 15 milliards, on le fait. C'est ça que ça prend? Let's go, ça nous prend un projet de transport structurant parce qu'on va être 1 million dans la ville, là, dans pas long. Là.
Toi, t'étais dans le mode tant qu'à y être.
C'est ça. Mais là, ça me faisait vraiment, puis là, je vais prendre ce terme-là, ça me faisait vraiment chier que la CAQ ait juste choisi le premier. Fait que là, je me disais, ben tant qu'à ça, faisons-le donc pas si t'es juste pour en choisir un. Mais tu m'as convaincu hier quand t'as dit, Jeff, faut commencer quelque part.
Moi, je suis de l'école des petits pas de bébé.
Ouais.
Et qui font boule de neige après.
Mais c'est ça l'affaire. Moi, je suis de l'école des grands projets. Moi,
les grands
ça
plans,
quand c'est
là.
Big. Tu sais, je suis comme Elvis Gratton.
T'es comme Elvis Gratton.
Mais non, c'est parce que je le sais que pour avoir travaillé dans le transport en commun, en regardant la démographie de la ville, en regardant la densification de la ville qu'on veut faire, ça prendra pas juste la rampe qu'on construit présentement centre-ville. Le Bourgneuf, je regarde ça, ça se développe à vitesse grand V. On peut pas croire qu'on va pas jusqu'à Beauport, tabarouette. Beauport s'est développé le long de la rue Royale. Donc là, je me disais, voyons, pourquoi qu'on le fait pas au complet? Puis ça me fâchait. Mais merci. T'es la force tranquille de ce show-là. Tu m'as tempéré.
Bon, écoute.
Mais alors, je t'en remercie. Directement en partant, je veux quand même amener votre attention sur le fait que, visiblement, la cible a changé. On parle pas de Sam Hamad qui veut pas faire de tramway.
Non,
on cible vraiment Stéphane Lachance.
Et il a dit, il est juste à 13%, fait que c'est la preuve qu'il a vraiment parlé de Stéphane Lachance.
On cible directement, puis en étant parti sur la lignée du tramway, le maire Marchand en a profité également pour critiquer la vision économique de Stéphane Lachance.
Et pendant ce temps-là, M. Lachance joue énormément, énormément avec l'économie de Québec. C'est dangereux ce qu'il propose. En revenant en arrière, c'est soustraire à l'économie de Québec des investissements importants, alors que nous sommes dans une période très difficile économiquement.
C'est lui l'ennemi, là, tout d'un coup?
Non. Moi, M. Lachance, M. Hamad, ça reste les principaux adversaires. Vous le voyez dans les résultats de sondage. Mais M. Lachance et M. Hamad jouent avec l'économie de Québec, jouent à la roulette russe avec l'économie de Québec et risquent de nous faire perdre. Et une fois qu'on aura perdu, ça va être très difficile de redonner l'élan que nous avons actuellement.
Vous avez entendu l'intervention de Mathieu Boivin de nouveau qui a permis au maire Marchand de comme se reprendre et dire « Ah non, c'est pas non, juste Stéphane Lachance que j'attaque, là, j'attaque aussi Sam Hamad, mais on le voit là. » Les couteaux sont sortis, puis ils visent Stéphane Lachance.
Mais tu ferais la même chose, Antonine. Toi, t'attaquerais celui qui est en montée pour celui qui est en descente.
Bien, en fait, pour moi, le jeu de Bruno Marchand, c'est de tenir Stéphane Lachance puis sa maman continuellement un peu égaux. Parce que s'il fallait qu'il y en ait un qui est identifié comme le champion par les opposants à Marchand, puis que là, ça y est, tout le monde se rallie autour d'un seul, ça devient dangereux là, pour Bruno
Marchand. Oui, pour son élection, en effet.
Fait qu'il va falloir qu'il balance ses attaques, tu sais, puis qu'il s'arrange pour qu'il n'y en ait pas un là, qui se mette à partir en sprint.
Qui se mette à partir sur une chute. Au niveau de l'économie, tu sais, c'est deux visions différentes qui s'affrontent. Stéphane Lachance, c'est une vision de « je vais redonner de l'argent dans les poches des commerçants, puis comme ça, c'est eux-mêmes qui vont nous développer l'économie. » Cependant, tu sais, on ne peut pas passer à côté du fait que c'est vrai que de concevoir le tramway, ben, c'est 4 milliards d'investissements privés autour, avec la densification urbaine, ce qu'on a de besoin. Donc, Bruno Marchand n'a vraiment pas tort quand il mentionne ça.
Ben, c'est deux visions du développement économique. Il y en a une qui, disons, mise sur mettre de l'argent dans les poches des individus.
Oui, exactement.
Il y en a une autre qui mise sur on met notre argent en commun, mais qui n'exclut pas non plus le développement économique par les entreprises.
C'est ça.
Parce que la colonne vertébrale qui est le tramway va attirer toutes sortes de développements également. Mais M. Lachance est vraiment plus dans une approche, j'ai envie de dire, conservatrice.
Bien, vraiment. Puis c'est un ancien candidat du Parti conservateur au Québec. Donc, on retrouve très bien les politiques du Parti conservateur là, à l'intérieur. Il n'y a pas de doute là-dedans. Mathias, Bruno Marchand a beaucoup parlé, puis c'est Claude Villeneuve le premier qui en a parlé, du périmètre urbain, que Stéphane Lachance veut agrandir le périmètre urbain. Est-ce que Bruno Marchand en a parlé?
Bien, il n'y avait pas de raison à la sortie de ce matin. Hein. Bruno Marchand a annoncé une sortie, une mêlée de presse aux médias. Il a dit « on va répondre à vos questions ».
Oui, c'est ça, vos questions.
On a rapidement senti que la raison première, la chose première que Bruno Marchand voulait commenter ce matin, c'était justement l'idée de Stéphane Lachance d'ouvrir le périmètre urbain.
Ouvrir le périmètre d'urbanisation. Quand que quelqu'un nous fait la leçon sur la fiscalité et nous dit qu'il va ouvrir le périmètre d'urbanisation, et que dans son programme, on dit « inquiétez-vous pas pour la forêt, parce qu'on va en couper, peut-être 40 %. On va ouvrir dans les terres agricoles, on va ouvrir dans les milieux humides. » Donc, l'effet sur l'environnement, il est catastrophique de cette grande ceinture verte que nous avons à Québec. Mais au-delà de ça, là, sur le point de vue fiscal, quand on ouvre des quartiers qui sont à proximité de territoires desservis, donc pour lesquels c'est plus facile d'amener les égouts et l'eau potable, entre autres, on est sur des seuils de rentabilité qui vont varier autour de 15 ans. Avant que les taxes qui nous reviennent couvrent les frais d'investissement de la ville, on a à peu près 15 ans. Quand on s'en va en périphérie et qu'on est sur des territoires non desservis, en plus de tous les effets négatifs sur l'environnement, en plus de tous les effets négatifs sur la circulation routière, sur la ville, là, puis on verra à préciser ces données-là, là. Ça peut prendre 30, 35 et 40.
Tu sais quoi, Antonine? Je pensais à ça hier, justement, à l'élargissement du périmètre urbain, puis je me disais deux choses. La première, c'est que si tu élargis, c'est des coûts d'infrastructure de plus. Donc, tes promesses de diminuer les taxes, diminuer justement, t'es coupé drastiquement dans le budget de la ville, pourra pas se faire. La deuxième chose, c'est les opposants au tramway, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ben là, on n'en a pas besoin de tramway parce que c'est des routes de plus qu'on a besoin pour la congestion. Mais là, si tu mets du monde encore plus en périphérie...
Ça vient en char, ce monde-là. Là.
Ben, c'est ça.
Fait que tu rajoutes des chars à route.
Tu rajoutes des chars à route. Fait que le matin, quand Max Larouche vous fait la circulation puis vous dit, ben, c'est bloqué sur Henri IV à partir de Sainte-Geneviève. C'est bloqué sur Laurentien à partir de La Fonde. Bon, ben, c'est bloqué sur de la capitale à partir de Beau-Royal. Ben, dites-vous qu'étendre le périmètre urbain, ben, Max va juste aller encore plus loin sur ces autoroutes-là pour la congestion.
Exactement. Mais puis, tu sais, moi, je reviens sur la question des infrastructures parce que c'est vital, là, cette question-là. Toutes les municipalités peinent à entretenir les infrastructures. C'est un défi énorme et avec les taxes actuelles, on n'arrive même pas à les entretenir. Donc là, tu me dis, on va élargir, on va étaler encore plus. Parce que ça veut dire des routes, des aqueducs et des réseaux d'égouts et du déneigement et du nettoyage de rues et de la gestion des stationnements et blablabla, etc., etc. Ça, là, c'est pas juste les nouvelles taxes qui vont être payés par ces maisons-là.
Ah, ben non.
En plus, c'est pas dense, là,
non,
ces
non, non, exactement. Là.
Qui vont réussir à pallier
ça,
pour le manque.
Ça, c'est le collectif qu'il va falloir qu'il paie pour ça. Et ça, le collectif, ben c'est qui? C'est moi et toi qui habite à Québec. Là.
Ben c'est ça. Fait que, en tout cas, bref. C'est encore une fois deux visions qui s'affrontent, qui sont extrêmement différentes du côté de M. Lachance et M. Marchand.
Exactement. Moi, je m'en gêne pas. J'aime ça prendre position en onde. Moi, je suis vraiment contre agrandir le périmètre urbain. Moi, je suis pour la densification.
La densification intelligente.
Intelligente.
Respectueuse.
Exactement. Je ne suis pas pour qu'on mette des buildings à 50 étages. Tu te souviens-tu du fameux projet Le Phare?
Le Phare!
C'est ça. Mais je suis pour une densification. Je suis pour que, justement, on développe davantage la ville et nos centres-villes parce que, de toute façon, ça va développer le commerce local aussi. Ça va développer des milieux de vie intéressants. J'ai juste à penser au projet que les Trudel font avec des parcs qui sont associés à ça, des espaces pour la communauté en entier. Donc, moi, je suis vraiment pour ce. C'est très partagé parmi nos auditeurs, puis merci de réagir, 418-971-1021. Il y en a beaucoup qui disent « Ouais, mais je peux pas croire qu'on va investir des milliards dans le tramway avec un maire qui a seulement 29 % des votes. » Mais en effet, le vote va être dilué, peu importe qui passe. On pourrait le dire à l'inverse. Les pro-tramway pourraient dire, si jamais Stéphane Lachance gagne à 30 %, pourraient dire « Je peux pas croire qu'on arrête le projet avec un maire qui gagne à 30 %.»
Ben oui, donc, exactement.
Un côté comme l'autre s'équivalent.
Oui, puis Bruno Marchand l'a aussi précisé ça ce matin, que si au final tu prenais tous tes candidats pour le tramway, puis les candidats contre le tramway, puis tu les additionnais, ben ils sortaient quand même gagnants. Il y avait un plus grand pourcentage de personnes dans le sondage qui votaient pour des candidats pro-tramway, là, présentement à Québec.
Exactement.
Bon, on le voit depuis le début, le ton a changé du côté du maire Marchand envers Stéphane Lachance. Puis on a vraiment attaqué tous les côtés qu'on pouvait attaquer. La prochaine cote de Bruno Marchand, il
parle de Stéphane Lachance, ville de Lévis.
Ben,
hein?
Il parle de Stéphane Lachance et de sa maman qui n'habite pas en permanence la ville de Québec.
Ben moi, je n'aurais jamais osé me présenter dans une ville que je n'habite pas. Même si la nouvelle loi peut le permettre, là, je ne comprends pas qu'on veuille habiter ailleurs, pas payer ses taxes et dire aux citoyens qui, eux, payent des taxes dans cette ville-là depuis longtemps, ben j'ai envie de vous représenter. Je connais bien cette ville. Non. Je pense que c'est un minimum dans une municipalité d'habiter cette municipalité-là pour la représenter comme maire ou mairesse.
T'en penses quoi, Antonine Iacarini, de ça?
Ben moi, je suis assez d'accord. Je pense pas que ça te disqualifie. Mais je pense que c'est normal que tes adversaires politiques viennent le souligner. Mm-hmm. Est-ce que ça doit être interdit? Je pense pas.
Non, moi non plus.
Est-ce qu'il y a un coût politique à se présenter dans une ville où tu ne vis pas? Je pense que oui, puis je pense qu'il y a quelque chose de sain à travers ça. C'est sûr que si, par exemple, il habitait à Saint-Augustin...
C'est ce que sa maman...
C'est ça. Moi... Tu sais, ça a défusionné. C'est un peu un hasard de la vie, mais reste que c'est assez... Pour moi, Saint-Augustin...
Il y avait juste à pas défusionner.
Mais il y avait juste à pas défusionner. C'est comme l'ancienne Lorette, ça. Mais de toute façon, tu sais, quand on est de l'autre côté du fleuve, on est dans une autre région carrément. Mm-hmm. Puis je comprends que c'est souvent intégré. Mais bref, moi, je suis assez d'accord que c'est normal que les adversaires le soulignent. De là, l'interdire, bof.
Non, exactement. Stéphane Lachance s'est défendu sur nos ondes en disant « Voici mon permis de conduire. J'ai une adresse permanente à Québec. » Il l'avait montré à Max Larouche. C'était de bonne guerre. Je pense que c'est utilisé. Moi, pour de vrai, je veux que le maximum de gens se présentent. Il y a tellement de municipalités qu'il n'y a pas personne qui se présente. Que quand il y a un maximum de gens qui se présentent, tant mieux. Mais c'est sûr, et là, je parle de moi personnellement, le TQ de la Basse-Ville de Québec, ça m'attire bien plus un maire qui vit à Québec qu'un maire qui ne vit pas à Québec.
Exact.
Ça, c'est clair, net et précis. Les banlieues coûtent en général 35 à 50 % plus cher qu'un centre-ville. Et les banlieues payent moins cher le mètre carré de leur maison et terrain. C'est un auditeur ou une auditrice qui nous écrit ça. Alors, c'est un peu ça aussi quand on parle d'étirer le périmètre urbain. Évidemment, ben il va avoir là, des coûts additionnels. Bruno Marchand est en débat face à face avec Sam Hamad ce soir sur les ondes d'LCN, 19h pour ceux qui veulent l'écouter. On aura des extraits demain matin dans le show Marceau le matin. Est-ce qu'il avait quelque chose à dire là-dessus, mon Mathias?
Oui, ben du côté de Bruno Marchand, on espère que le face-à-face de ce soir, face à Sam Hamad, sera plus constructif que ce qu'on avait eu du côté de Boulevard.
Bien, je pense que non. Je pense que les deux restent des adversaires. Je pense que c'est une course pour la deuxième place présentement dans les sondages. Et nous, on va continuer d'essayer d'aller chercher plus de gens, d'aller présenter, de continuer à présenter notre vision. Je vais les laisser travailler. Puis comme on le fait, lorsque les propositions ne seront pas réalistes, bon, on on va le dire. Là. Puis même celle de M. Hamad, là, pas juste celle de M. Lachance. Mais M. Hamad, aujourd'hui, on est au 22e jour, 21e jour de campagne, il a fait deux sorties d'annonce. Une sortie pour déposer toute sa plateforme et une autre pour parler du centre Savard dans l'arrondissement des Rivières. C'est tout. Aucune annonce économique. Aucune autre annonce. Alors, c'est très, très particulier à lui de voir comment il gère sa campagne. Mais présentement, à mi-campagne, il est absent du contenu.
Donc, on peut voir du côté de Bruno Marchand qu'on on s'est concentré, on a concentré nos flèches du côté de Stéphane Lachance, mais on garde, on en garde quand même quelques-unes. Oui, c'est ça, à la fin du point de presse, on en a gardé une petite pour attaquer également Sam Hamad.
Je pense que Sam Hamad va être meilleur à LCN ce soir, il n'y a pas le choix. Il faut changer sa stratégie, il a tellement été critiqué, puis là, il est vraiment au bord du gouffre, là, honnêtement. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, qui as déjà été dans des campagnes électorales, Antonine? Moi, je suis d'accord avec Bruno Marchand, comment ça, on le voit pas?
Honnêtement, la stratégie de communication de cette campagne-là, je ne me l'explique pas. Parce que M. Hamad vante régulièrement sa grande expérience, mais la communication politique, il y a comme des règles d'or qui sont bafouées là, depuis le début de cette campagne-là. Puis une de ces règles-là, c'est de créer de la nouvelle. Donc, tu évites de tout garrocher tes affaires en même temps. Là, tu sors de la plateforme d'un coup, puis tu essaies d'emballer des nouvelles pour qu'on puisse, nous, les médias, le couvrir, puis pas juste couvrir ses bourdes. Parce que c'était ça le début de campagne.
Ben oui, c'était ça. Et malheureusement, ça lui est resté collé parce qu'il n'a pas fait assez d'annonces après. Je vais donner l'exemple. Bruno Marchand, je trouve qu'il fait une campagne très jovialiste et ça lui rapporte. Il est arrivé durant la première semaine. Parfait, je m'attaque aux banlieues. La deuxième semaine, parfait, je m'attaque à l'économie. Puis c'était très stratégique. En passant, c'est deux choses qui se faisaient reprocher. Fait qu'il est arrivé et il a dit. Et la semaine pré-campagne, c'était attaqué à Saint-Roch. Fait que tu sais, il a pris ses trois faiblesses. Puis il les a attaqués de front avec annonce par-dessus annonce.
Avant les débats.
Alors, il contrôle le narratif. Et lorsqu'il arrive au débat, je fais ça. Et sa façon de s'en sortir, c'est de dire, savez-vous quoi? On ne pouvait pas tout faire dans un mandat de 4 ans. Donc, voici pourquoi je suis rendu là. Bon, après puis ça, c'est à
et
vous
et voici
de
pourquoi j'ai besoin d'un autre mandat de 4 ans, c'est logique. La nature a horreur du vide. Les médias aussi.
Ouais.
Donc, non seulement tu laisses plus de place à tes adversaires si tu prends pas ta place, mais en plus, c'est que si tu n'as pas des nouvelles positives, ben c'est toujours les petites anecdotes, les bourdes et compagnie qui vont prendre la place. Donc, il y a une part de responsabilité. Peut-être, tu sais, je l'entends des fois, là, ils trouvent que les médias parlent trop de ces bourdes, mais offrent autre chose.
Non, en effet, et c'est ce qui n'est pas offert.
Mais en même temps, tu parles d'une campagne très jovialiste pour Bruno Marchand, puis j'ai pas le choix de te dire, d'un certain sens, t'as raison, j'ai couvert énormément d'annonces de Bruno Marchand. Par contre, la sortie de ce matin, j'ai un peu du mal à me l'expliquer. Je veux dire, Bruno Marchand est à 29% dans le sondage, puis on invite les médias à venir poser leurs questions. Ça veut dire, j'invite les médias à venir me permettre de critiquer les autres candidats. En tant que maire sortant, en tant que chef de parti, il savait très bien que ce matin, tous les médias allaient être sur le cas de « on veut vos réactions sur la montée de Stéphane Lachance ». C'était sûr, ça allait être ça. Ben c'est ça, ça veut dire que lui, il a ouvert la porte puis il a dit « je vais venir le bâcher, Stéphane Lachance ». Mais quand tu es un maire avec autant d'avance, est-ce que c'est vraiment une stratégie qui est payante? Est-ce que je sais pas, je trouve que ça fait un peu petite politique.
Ben, en fait, quand tu es le meneur, normalement, tu es censé être un peu au-dessus de la mêlée, surtout quand tu es le maire sortant ou l'élu, bref, qui est sortant. Donc, je suis un peu d'accord avec toi, ça faisait un peu bizarre, c'était très négatif, là, finalement, ce qui ressortait de tout ça. En même temps, son avance n'est pas si grande que ça. Ça, je veux quand même la relativiser, surtout que si un des deux adversaires principaux se met à monter, là, puis que ça devient le train après lequel toutes les gens qui n'aiment pas Bruno Marchand s'accrochent, ça peut être dangereux. Donc, c'est peut-être la stratégie en arrière de dire, je vais envoyer quelques petites flèches aux deux. Des grosses flèches à Stéphane Lachance, des petites fléchettes à Sam Hamad pour aujourd'hui parce qu'il a perdu des plumes dans le dernier sondage. C'est peut-être ça la logique.
Puis en même temps, Bruno Marchand le sent chaud. Un peu comme PSPP au provincial.
Ouais.
Faut que tu, des fois, ça y fait plaisir. Il y a plusieurs auditeurs qui nous écrivent. Puis d'ailleurs, écrivez-nous 418-971-101. Puis écrivez-nous donc pour qui vous allez voter. Marchand, Hamad, Lachance ou Villeneuve ou Jackie Smith ou Anne Guérette. Faites juste nous écrire le nom 418-971-101. Il y a beaucoup d'auditeurs qui écrivent Caroline, qu'un ton arrogant, Bruno Marchand, mais tu sais, ça fait partie de sa personnalité. Il aime ça venir foutre le trouble un peu.
Un petit peu baveux, des fois.
Oui. Oh oui, il aime ça venir foutre le trouble.
Il se fait plaisir.
Il se fait très, très, très plaisir. Puis pour avoir couvert des conférences de presse de Bruno Marchand pendant 2 ans, je peux vous dire que ça y fait très plaisir de le faire. Mathias, avant qu'on passe à l'excellente chronique de Rémi Villemeux, est-ce que tu peux juste nous raconter la nouvelle qui est sortie ce matin par rapport à la base de Valcartier, du matériel militaire qui sort de là comme si je vais à l'épicerie m'acheter une douzaine d'œufs, parce que ça va être le gros reportage d'enquête à JE ce soir sur les ondes de TVA.
Oui, on parle de ça, de la base militaire de Valcartier qui ont collaboré avec justement l'émission JE pour faire une enquête sur est-ce que les armes militaires à Valcartier sortent facilement ou c'est quand même surveillé adéquatement. Et ce qui est ressorti, c'est que les soldats ont eu quand même assez de facilité à sortir plusieurs armements. On parle de chargeurs de fusils automatiques, de viseurs optiques de combat, notamment, qui ont été sortis de manière très, très facile. Donc ça dénonce forcément un manque de contrôle sur la base. Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, on a différents témoignages, notamment Vincent, un nom fictif, un membre du Royal 22e, qui a dit, par exemple, « Je suis allé récupérer mon arme au quartier maître un lundi matin et on m'a dit qu'elle avait déjà été sortie par quelqu'un d'autre, sans trace ni rien. Mon arme était juste partie. » Puis, selon les témoignages recueillis justement pour l'émission JE, on se rend compte que c'est pas nécessairement rare que d'équipements disparaissent complètement, et ça sans que la chaîne de commandement en soit avisée. Ça pourrait expliquer en partie que présentement, selon les statistiques officielles de l'armée, seulement 5 armes ou accessoires d'armes ont été perdus ou vandalisés en 2024. Pourtant, juste avec ce reportage-là, on voit que c'est beaucoup plus.
Exactement. Et Sarah Maud Lefebvre, qui est une des journalistes de l'équipe JE, une excellente journaliste d'enquête, explique davantage dans l'émission de Mario Dumont ce matin.
Expliquer qu'il y avait au sein de la base des magiciens.
Des magiciens?
Okay? On les appelle les magiciens. Donc, ce sont des gens dans les services d'approvisionnement qui sont habitués de jouer avec les chiffres, si on peut dire en quelque sorte.
Donc, on corrige l'inventaire.
Exactement.
OK. C'est pas tout. Là. Vous avez appris qu'il y a des individus liés au crime organisé qui essaient de tourner autour de la base de Valcartier.
Oui, on peut vraiment se demander qu'est-ce qui se passe à Valcartier. Hein? Mais oui, on a trouvé dans des services de renseignement policiers, notamment, la trace d'individus liés aux Hells Angels qui ont fréquenté la base militaire de Valcartier. Mais les Forces armées canadiennes ne s'en cachent pas. Hein? Ils nous ont confirmé collaborer régulièrement avec les services policiers au sujet de la base de Valcartier et des problèmes de crime organisé.
À surveiller.
C'est très, très, très troublant, Antonine, de savoir que le crime organisé est autour de la base de Valcartier puis qu'il y a des magiciens qui
magie,
sortent des armes.
C'est pas de la belle magie, ça.
Non.
On savait qu'il y avait des problèmes autour de la frontière, hein, ça. C'est un enjeu important, notamment la réserve Mohawk Akwesasne, mm-hmm. qui est une réserve qui est sur la frontière. C'est une plaque tournante pour toutes sortes de choses et d'armes. Mais moi, j'ai été assez jetée en bas de ma chaise là, par ce dossier du journal concernant Valcartier. C'est vraiment inquiétant.
Donc, on devrait en savoir plus ce soir. Et normalement, il va falloir que autant les gens de la base de Valcartier que le gouvernement fédéral réagissent par la suite. Là.
Hey, moi, l'exemple que Mathias donnait, là, tu viens chercher ton arme et elle est déjà sortie, puis personne ne sait c'est qui l'a sortie. On pense avoir des lois et des encadrements concernant mm-hmm. les armes à feu au Canada qui sont extrêmement sévères. Tous ceux qui possèdent une arme à feu le savent. Les lois sont très, très sévères. C'est comme s'il y avait une zone franche entourant finalement ce qui concerne les militaires. C'est là-dessus qu'il va falloir agir. Là.
Exactement. Les Canadiens, le Canada est un pays bilingue, mais Mark Carney ne parle pratiquement jamais français. Quand il s'exprime à titre de premier ministre, il parle seulement 17% du temps en français.
Non, mais tu sais ce qu'on dit sur le Canada est un pays bilingue? C'est quoi les deux langues? C'est l'anglais et la traduction simultanée. Êtes-vous surpris?
C'est triste. Ben non, je ne suis pas surpris avec Mark Carney. Puis là, c'est là que je tends la main vers mon apprend de la Constitution, Antonine. Iaccarini, on parle de ceci avec Rémi Villemeur après la pause. Puis on va également parler de Santé Québec qui refuse de rendre public les détails des indemnités de départ. Alors, ça va toujours bien pour Santé Québec. Rémi Villemeur est avec nous. Après cette courte pause, vous êtes à l'antenne de Boulevard 102 à l'émission d'En Jase.
Jusqu'à 4.
Émission Langeance sur les ondes de Boulevard 102.1. Il est présentement 13h15. Évidemment, c'est le retour de Gravel qui nous suit de 14h à 18h avec Denis Véro et Audrey. Et on a également, je vous le rappelle, un spécial chill, rock and chill en fin de semaine pour l'Action de grâce samedi, dimanche et lundi. Vous aurez le droit à la meilleure musique, mais un petit peu plus relax, donc la meilleure musique acoustique. Évidemment, ça sera pas juste de l'acoustique, mais il va en avoir comparativement habituellement. Il y en a seulement le matin et les samedis et dimanches de 7h à 10h avec l'excellente Audrey Pinchot. Matière circulation?
Oui, ça vient tout juste de rentrer. Il y a un accident sur Capital direction ouest à hauteur de 1ère avenue. La voie de gauche est présentement fermée, donc un ralentissement qui commence à se créer dans le coin. Si vous avez des informations, 418-971-1021.
13h16, on s'en va rejoindre notre excellent chroniqueur à Montréal. Il est animateur au niveau du 99.5 du lundi au jeudi de 18h à 19h et les samedis matins de 8h à 10h. Rémi Villemur, comment vas-tu?
Ça va super bien, les gars, vous deux.
Ouais, je suis... Attends une minute, Rémi. Là, tu as dit 100% des mots en français? T'es
oui,
meilleur que Mark Carney!
Woohoo! Oui, 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 je suis capable que ça. Ben, Radio-Canada... nous arrive avec quelque
ben
chose
oui.
Ça a surpris personne.
Là, ben non, ça a surpris personne. Écoute, Marc a de la misère à faire une phrase en français, donc je suis pas surpris qu'il jase seulement à 17% en français. Il
faut rappeler que c'est Mark Carney, c'est pas Marc Carney.
Ouais, c'est hein. Ça, exactement. Hein? Mark.
Je pense qu'il y a une couple de Québécois aux dernières élections qui se sont laissés berner par le prénom de M. Carney.
Ben, tu penses, voyons, il est pas passé fort au Québec. Qu'est-ce que tu fais dire ça?
Rien pas en tout. Écoute, je suis complètement dans les patates. Mais ouais, ils ont calculé, et d'ailleurs, on peut leur soupçonner de la maladie mentale à ces journalistes-là d'avoir fait cet exercice-là, calculer le nombre de minutes qu'il a consacré en français. Mais moi, je trouve que c'est très important comme exercice.
Oui, vraiment.
On se rend compte que 17% seulement du contenu des discours du premier ministre du Canada, un pays officiellement bilingue, sont en français. Ouais. Puis ce sont ses discours devant les journalistes, mais c'est aussi les discours qu'il prononce à l'étranger, là où il y a moins de journalistes du Canada, et là où je pense le naturel revient au galop. Parce que 17%, c'est la grosse moyenne, mais quand il est à l'extérieur du pays, je pense que ça descend à 13%.
Okay.
Donc là, 13%, là, hey, on est comme... c'est 13 secondes sur chaque 100 secondes.
Oui, okay. Ben dans le fond, 13%, c'est juste pour le journaliste de Radio-Can qui l'a suivi ou le correspondant à l'étranger de Radio-Canada francophone. Parce que sinon, à moins qu'il soit en France, il ne parlera pas en français dans ses discours.
Alors que Stephen Harper le faisait. Stephen Harper, premier ministre du Canada de 2006 à 2015, lui, il parlait en français. Il prenait toujours la parole en français, peu importe où il était dans le monde. Il était en Chine, il parlait en français. Il était en Russie, il parlait en français. Hein, il fut un temps où on pouvait aller en Chine et en Russie.
Ouais.
Du Canada. Je vous ramène assez loin. Mais parce que je vous ramène là aussi, parce que c'est un autre monde. Je pense que le Canada... retrouve un petit peu ses vieilles pantoufles. C'est un pays qui, par moments dans son histoire, se sacre comme du monde du français. Ça ressemble beaucoup aux bonnes vieilles années d'un Johnny McDonald au début du 19e siècle, là. Enfin, fin du 19e plutôt, au début de la Confédération. Le français, c'est vraiment pas important. C'est écrit sur le papier puis sur les sur la l'acte de l'Amérique du Nord britannique que c'est une langue officielle, mais bon.
Oui, puis c'est d'autant plus décevant, Rémi, puis je suis certain que tu vas être d'accord avec moi, que c'est l'héritage de deux francophones, ça. Pierre-Éliott Trudeau et Justin Trudeau.
Oui, tout à fait, tout à fait. Sauf que ce pays-là n'a jamais fonctionné de façon tout à fait sincère. Hein? Le français, ça a toujours été... Regardez Mary Simon, on court après son français, ça y coûte des dizaines de milliers de dollars, elle n'y arrive pas, puis au final, on va finir par se satisfaire d'un petit progrès si elle est au moins capable de nous en offrir un. Mais dans un monde normal, s'il y a deux langues officielles, ben c'est 50-50. C'est pas... 17%, 83% français. Dans un monde normal, les francophones du Nouveau-Brunswick constituent 30% du pays, de la province, auraient un premier ministre qui parlait français dès son arrivée au pouvoir, parce que ce n'était pas le cas. Il ne parlait pas français, le premier ministre du Nouveau-Brunswick, qui a fini par apprendre un petit peu. En Ontario, Doug Ford, il ne parle pas français, jamais. Là. Il ne parle pas français du tout. Il y a pourtant des dizaines et des dizaines de milliers, si ce n'est pas plus de 100 000 francophones.
En effet. Surtout dans la région d'Ottawa, en plus.
Tout à fait. Donc, je pense qu'on peut être choqué. Moi, j'apprends ça ce matin et je me dis, bon, c'est choquant. Franchement, il nourrit d'en face. Il n'a pas du tout appris. Hey, rappelons-nous quand même quand il était là, tout le monde en parle, puis c'était l'entrevue la plus mise en scène que j'avais bien pu voir, à tout le monde en parle. Il est arrivé, première question, parce qu'on a toujours un plus d'énergie au début.
Hein. Oui, oui.
Question, c'est connaissez-vous un peu la culture québécoise? Mmh. Oui, j'écoute mes aïeux. C'est bien, t'écoutes mes aïeux. Pas mes aïeux, Mark Carney, franchement. Là.
Ben voyons donc. Il chante pas ton arrière-grand-père. Non, crime de mort.
Ah, c'est mais, pas en tout, moi.
Mais ce que ça nous démontre, là, puis là, je veux pas faire une montée souverainiste ici sur les ondes de Boulevard 101, mais ce que ça nous démontre, là, c'est que en campagne électorale, pour aller chercher des votes au Québec, n'importe quel parti, et surtout le Parti libéral du Canada, va tellement être gentil avec le Québec. Mais une fois qu'ils sont rendus au pouvoir, ils s'en sacquent bien raide du Québec.
Oui, mais tu sais, je veux pas forcément qu'on reparle de cette élection-là parce que c'est derrière nous. Puis il y a bien des affaires qui nous attendent, mais ça m'échappe quand même encore à ce jour le fait qu'un homme qui était à peine capable de coller 10 mots d'affilée sans s'enfarger 4 fois, a réussi à attirer la sympathie des Québécois, ouais, à gagner leur cœur. Parce que tu dis, Jeff, ils sont gentils pendant les élections, puis après, ils s'en fichent. Ben, jusqu'à quel point ils ont été gentils durant les élections?
Ben, t'as raison. Ils ont plus joué la carte de peur, Donald Trump, le CV, l'économiste Carney. Mais là, à part s'asseoir dans le bureau de la Maison-Blanche comme cette semaine, puis faire des petites blagues avec Donald Trump, il n'y a pas beaucoup de résultats.
Non, il n'y a rien. Puis d'ailleurs, c'est assez fascinant d'en voir certains qui sont méga impressionnés par ce qui s'est passé. Il ne s'est rien passé, la gang. Là.
Non, non, il ne s'est rien passé. C'est juste passé 2-3 jokes. Puis Donald Trump a parlé à 98 % du temps. Donc, Mark Carney a eu seulement 2 % du temps. C'est moins que ce qu'il parle en français, qui est déjà minime.
Non, mais ça, le monde qui sont impressionnés par la performance de Mark Carney à Ottawa, c'est le même monde que quand tu t'en vas au même party qu'eux autres. Puis tu t'es pas amusé pendant tout, il ne s'est rien passé. Eux autres, ils racontent là, au lendemain au bureau.
Oui.
Ça fait longtemps qu'on s'était vus. Hey, on a écouté de la musique, on s'est couché aux petites heures. On est rentré à 9 h le soir.
Non, c'est ça. J'adore Rémi Villemot. Hey, Rémi, parlant d'organisation, que de la difficulté à aller chercher justement des réalisations. Santé Québec. Santé Québec, ça va pas bien. On a mis sur pause Santé numérique. On comprend pas trop à quoi ça sert. Et là, voilà que Santé Québec refuse de rendre public les sommes versées en indemnité de départ aux hauts dirigeants remerciés depuis sa création, y compris celles versées à son ancien numéro 2, Frédéric Abergel. Rémi Krim, attends une minute, je fouille dans mes poches. Ah ouais, ouais, c'est mes poches qui payent Santé Québec. Pourquoi je sais pas ce qu'on fait avec mon argent?
Ah, mais écoute, c'est un scandale, là. Avec un gros S majuscule, un gros C, puis on continue jusqu'au E à la fin.
Ah oui, T en majuscule. Tu sais, quand t'écris à quelqu'un en lettres majuscules pour lui montrer que t'es fâché, là, ben c'est ça, ouais, scandale. Mais là, il est vraiment en grosse, grosse lettre, puis en caractère gras.
Ou sinon, si t'es comme Jacques Gourde, le député conservateur, qui écrit « c'est un scandale ». Écoutez, non, mais c'en est un, parce que quand une entreprise privée, hein, qui fait affaire avec le gouvernement, Santé Québec, c'est pas le cas, là. Une entreprise non. privée, OK, fait affaire avec le gouvernement, et là, hop, ça fait faillite, hop, OK, il y avait de l'argent du gouvernement là-dedans, ah, oh, l'entreprise a payé des indemnités de départ. En soi, on a toujours l'impression que ça se fait fourrer, mm-hmm, mais c'est une entreprise privée. Ça les concerne, ça les regarde, ils ont des CA, ils ont des chartes de fonctionnement, ça les concerne. Là, c'est le gouvernement du Québec. Ce sont des fonctionnaires à qui on a dit « ça ne marchera pas, OK, on ne s'entend pas bien avec Mme Biron » ou « OK, on va revoir à la baisse nos attentes, il y a trop de monde dans l'arbre, vous en allez, on vous donne, OK, on va vous payer, là. Vous étiez payé 400 000 $ par année, mais on va vous payer encore plus parce qu'on comprend, vous auriez resté à telle autre place, vous avez accepté un nouveau défi. On veut le savoir, c'est notre argent, c'est à nous, là. C'est pas l'argent qu'on donne à une entreprise privée une fois de temps en temps quand on achète un de ses produits puis c'est coté en bourse. C'est le gouvernement du Québec, c'est l'argent. Ça devrait être interdit de rendre ça pas public. Ça devrait être, tout le monde devrait avoir affaire à ça. Là, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec essaie d'accéder à l'information, se fait dire ça marche pas. Même eux autres, là, sont comme... c'est pas normal, là. C'est assez inédit, là. D'habitude, on a accès à ces informations-là. Donc là, pour une fois, je suis d'accord. Pour une fois, là, écoutez-moi bien, là.
Vas-y.
C'est rare. Mais pour une fois, je suis d'accord avec Québec solidaire, parce que Vincent Marissal est sorti sur la place publique. C'est son genre de dossier, puis il a dit « c'est l'État dans l'État ».
Oui, en vraiment.
Puis pourtant, Québec solidaire, s'il y a bien un parti qui n'a pas de problème avec la bureaucratie puis la taille de l'État telle qu'on le conçoit aujourd'hui, c'est bien eux. Mais là, ils ont dit que ça n'a pas d'allure, là. C'est quand l'État est tellement rendu gros, costaud, corpulent, Ben là, c'est rendu que quand il cherche l'information entre ses 8000 bourrelets, lui-même, il est plus capable de trouver. Mais là, ça va faire. Là. Ça va faire se foutre du monde comme ça. Là.
Exactement. Puis Rémi, si c'était le ministère de la Santé, s'il n'y avait pas de Santé Québec, est-ce qu'on serait obligé de les rendre publics, justement? Est-ce que la loi d'accès à l'information nous permettrait d'avoir tous ces chiffres ou on pourrait le caviarder également?
Écoute, là, je ne suis pas la meilleure personne pour répondre à cette question-là. Ouais. La Fédération professionnelle des journalistes du Québec disait ce matin, c'est assez rare qu'on se bute à un tel silence, à un tel, voyons, tu sais, c'est un labyrinthe, là, accéder à ces informations-là. Donc, je pense qu'habituellement, on a le droit, il y a un accès à l'information, il y a une transparence, mais c'est ça qui arrive quand une grosse bébite accouche d'une autre grosse bébite. C'est qu'à un moment donné, c'est rendu compliqué, là. Les règles changent, l'univers. Santé Québec s'est présenté souvent comme une façon de réduire la taille de l'État. Tu te dis, mais c'est une autre bébé
ben oui,
de l'État.
C'est un autre organigramme, ça réduit rien, là.
Non, puis on voit bien que ça c'est pris avec les mêmes mauvaises habitudes, avec les mêmes processus. Hein. On garde ça, c'est pas. C'est la culture du silence. C'est la culture du silence. Puis écoutez, il y a nous, il y a les mandarins de l'État et il y a le peuple. Il faudrait quand même pas que le peuple sache jusqu'à quel point on l'a fourré.
Non, en effet, Kim qui écrit, on dirait que les gouvernements s'arrangent pour qu'on les déteste. Il n'y a pas une journée où je n'ai pas l'impression de me faire avoir par ces gens-là. Puis c'est vrai, c'est totalement enrageant ce qui se passe. Il y a un auditeur ce matin qui m'écrivait puis il me disait, « Hey Jeff, c'est parce que le 50 000 de prime là, à Frédéric Habergel, qu'on sait, il y avait un salaire de 344 000 puis une prime d'à peu près 53 000 $ là, pour changement justement d'institution parce qu'il est était directeur du CHU à Montréal, je ne me trompe pas, ben c'est mon salaire annuel. Fait que c'est ça qui est fou.
Non, c'est pas du monde qui gagne des pinottes, là. Puis en passant, il gagne non seulement dans six chiffres, puis c'est pas 100 000, c'est pas 200 000, c'est 300-400. C'est des gros fonds de pension.
Oui.
Puis c'est le rythme de travail qu'on connaît dans l'État du Québec, dans la bureaucratie, dans la fonction publique. C'est-à-dire, c'est pas un rythme inarrêtable et une cadence chevronnée, là. OK, Quand c'est férié, c'est férié. Quand c'est 5 heures, c'est 5 heures. OK, on va se dire la vérité. Mm-hmm. Il y a plein de gens qui nous écoutent qui sont en fonction publique, puis ils le savent, puis c'est correct, puis je les respecte. On a besoin d'eux. Mais les big boss en haut, d'accord? Eux autres, on veut savoir combien ils font, puis avec combien ils s'en vont, surtout.
Exactement. Rémi Villemur, c'est toujours un plaisir de te parler à chaque mardi et jeudi. Je te souhaite un excellent long week-end. Il annonce beau à Québec, il annonce beau à Montréal également?
Il annonce beau jusqu'à lundi.
Oui, même chose pour nous autres aussi.
Oui, exactement. On va être très chanceux.
Excellent. Alors, profite-en, mon ami. Tu travailles assez fort. Puis on se reparle le mardi prochain avec un immense plaisir. Et je termine en vous disant que la campagne électorale ici à Québec est passionnante pour les municipales. Alors, j'espère qu'à Montréal, le feu va prendre un jour.
Aucun commentaire.
Salut, bye Rémi. Bye, salut. Salut. Rémi Villemur, je sais très bien ce qui passe dans la campagne électorale à Montréal. C'est un paquet de gauchistes qui s'affrontent pour savoir qui va faire le plus de pistes cyclables. C'est aussi simple que cela. Mathias, après la pause, on va avoir une personne de Québec Destination Cité, d'accord? Et je t'explique pourquoi. C'est fort simple. C'est que ce matin, dans Marceau le matin, on a reçu Maxime Lapointe, un avocat spécialiste en immigration. Et voici ce que Maxime Lapointe nous a dit concernant Québec Destination Cité.
Mais actuellement, le gouvernement, la ville de Québec, pardon, Québec International, Québec en tête, sont au Brésil pour recruter des travailleurs étrangers. Donc, on dépense des fonds publics. Puis de l'autre côté, on crie qu'il y a trop d'immigrants. Là. Donc, ça, c'est une chose. Je créerais...
Hey, ça m'intéresse ce que vous dites là, par exemple. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, la ville de Québec travaille à contre-courant du gouvernement de la CAQ en matière d'immigration. Donc, les 18 et 19 octobre prochains, Québec Destination Cité sera au Brésil pour aller chercher des travailleurs. Et la question que je vais avoir pour Marie-Josée Chouinard, qui est vice-présidente de talents internationaux et investissements étrangers, est-ce encore pertinent de le faire avec le fait qu'on réduit les seuils d'immigration du côté du gouvernement du Québec?
Je pense que la question, elle se pose parce que, prenant en compte les nouveaux seuils d'immigration du Québec, même si tu t'en vas recruter des personnes, des travailleurs étrangers, est-ce que tu vas avoir le droit qu'ils viennent? C'est ça la question qui se pose. Est-ce que le seuil va être suffisant du côté de la CAQ pour que tu puisses dire « Hey, vous êtes intéressé à venir travailler? » Ben venez travailler ou au final... Ils vont être intéressés, mais tu vas dire, ah, finalement, le seuil ne le permet pas. Je pense que c'est quand même une piste qui vaut la peine d'être explorée.
Exactement. Et comme ici à l'émission, on en jase et surtout toute la programmation de Boulevard 101. On aime vous démontrer les deux côtés de la médaille pour que vous fassiez... Oui, oui, c'est ici que vous pouvez faire votre propre opinion. Eh bien, c'est justement ce qu'on va faire. On va donner la parole à Québec Destination Cité via Marie-Josée Chouinard. Après cette courte pause, vous êtes à l'émission On en jase sur les ondes de Boulevard 101. Pascal Cévé sera de retour avec nous dans deux semaines. En attendant, c'est Mathias Turcotte qui est avec nous. Matt, tu travailles très fort. J'adore faire de la radio avec toi. Il est 13h37, 12 degrés actuellement. Et je vous le rappelle, pour la fin de semaine, 14 degrés demain, 17 samedi, 16 dimanche avec le beau soleil, 12 degrés nuageux pour le lundi de l'Action de grâce. Mathias, ça brasse dans la circulation.
Oui, je vous en ai parlé tout à l'heure. Accident, capitale direction ouest à hauteur de Première Avenue. La voie de gauche qui est fermée présentement. La voie de droite qui est partiellement entravée également. Puis je vous l'avais dit, ça allait créer un fort ralentissement. Présentement, on parle de Première Avenue jusqu'à rue La Montagne, puis là, Blanche-la-Montagne, puis là, je tiens à dire que, selon moi, dans les prochaines minutes, ça va remonter jusqu'à rue Seigneurial. Le gros ralentissement à prévoir dans le secteur. Également, Pompière-la-Porte, direction nord, qui semble avoir un ralentissement présentement, ralentissement très anormal, qui me permet de douter qu'il se passe probablement de quoi sur le pont. Si vous avez des informations, 88-971-1021.
Merci beaucoup, Mathias. On s'en va s'entretenir avec Marie-Josée Chouinard, vice-présidente de Talents internationaux et investissements étrangers pour Québec International. Québec International qui sera au Brésil les 18 et 19 octobre prochains pour recruter des travailleurs. On va en savoir plus là-dessus. Madame Chouinard, comment allez-vous?
Ça va bien, merci.
Madame Chouinard, quel est l'objectif d'aller au Brésil recruter des travailleurs pour le Québec?
En fait, on organise une mission de recrutement au Brésil pour recruter des travailleurs qui sont des travailleurs qualifiés, spécialisés, pour des postes qui sont en pénurie de main-d'œuvre, pour lesquels on a déjà fait l'analyse localement, puis il y a eu plusieurs initiatives qui ont été faites aussi pour recruter localement là, de la part de ces entreprises-là. Et malheureusement, ces postes-là ne sont toujours pas comblés et on voit qu'il n'y a pas de Québécois là, qui sont diplômés dans certaines professions pour combler ces postes-là. À titre d'exemple, des électromécaniciens pour des entreprises ou des ingénieurs, à titre d'exemple. Là.
Parfait. Ces gens-là, est-ce qu'ils arrivent avec un permis temporaire là, où ils peuvent travailler au Québec pour 2 ans?
Oui, en fait, c'est des permis de travail temporaires qui sont des permis qui peuvent varier là, de 1 an à 3 ans selon les cas. Et la personne peut travailler pour l'employeur en particulier, puis par la suite basculer vers la résidence permanente.
Avec les nouvelles règles en immigration que la CAQ veut mettre, les plafonds qui vont être beaucoup plus serrés, est-ce mm-hmm. qu'il y a de véritables chances que ces travailleurs-là, par la suite, continuent à être des résidents permanents ou les chances sont vraiment diminuées?
Bien, nous, on est assez confiants, là, surtout le type de main-d'œuvre qu'on va recruter à l'international. C'est des travailleurs qui sont qualifiés, comme je disais tout à l'heure, puis c'est pour combler les postes en région, là, hors de la région de Montréal et de Laval. Donc, pour ce fait-là, en fait, considérant là ce qui a été annoncé dans le cahier de consultation pour la planification en immigration, on voit que le gouvernement veut préserver, je dirais, l'immigration en région, s'assurer que les gens qui sont qui ont un impact économique important là, en région puissent rester, surtout que c'est des travailleurs, dans le cas du Brésil, on cherche à recruter des travailleurs qui parlent déjà français. Là, où les gens sont quelquefois étonnés d'apprendre qu'on recrute des travailleurs qui ont déjà un niveau de français parce qu'on a des collaborations sur place là, depuis plusieurs années là, pour franciser les travailleurs avant leur arrivée.
Donc, vous, c'est vraiment le but, c'est les entreprises font affaire avec vous pour vous dire hey, « Écoute, j'ai pas de main-d'œuvre spécialisée dans tel domaine. » Et le but, c'est d'en amener le plus possible des francophones, j'imagine, pour qu'ils puissent commencer à travailler, à être productifs dès le jour 1 au Québec.
Ben oui, tout à fait. En fait, il ne faut pas oublier que Québec International, on est une agence de développement économique. Donc, tout ce qu'on fait, c'est dans un but de s'assurer de la croissance économique de notre région. Puis, force est de constater que dans certains cas, on a des entreprises pour lesquelles, si ce n'est que d'avoir 2 électromécaniciens supplémentaires sur dans leur usine, peut faire toute la différence. Puis ça peut aussi permettre de préserver des emplois canadiens, là, parce qu'à la fin de la journée, ce qu'on voudrait surtout pas, c'est des délocalisations d'entreprises, mm-hmm. faute de main-d'œuvre. Mais voilà, c'est comme ça qu'on aborde la question du côté de Québec International. On fait pas on fait pas de mission de promotion. Là. Souvent, les gens mélangent un peu l'attraction de talent plus largement en disant, ben venez au Québec, le taux de chômage est bas, il y a plein d'emplois pour vous. Nous, on est vraiment dans une stratégie de combler les besoins de main-d'œuvre très, très spécifiques depuis 17 ans là, qu'on a cette stratégie-là qui fluctue au fil des années. Je vous cache pas que cette année, on a beaucoup moins de demandes d'entreprises que d'habitude, puis c'est correct aussi. Il y a eu un recalibrage au niveau du marché du travail, puis tant mieux. Je pense que ça a permis de donner un peu d'air aux entreprises qui ont peut-être moins de pénuries qu'avant dans certains profils, mais pour certains postes, c'est encore une réalité bien présente. Puis malheureusement, on dira ce qu'on voudra, mais le vieillissement de la population est là pour rester pour une certaine période de temps. Donc, on doit continuer, mais de façon spécifique pour des postes particuliers.
Je termine avec ceci. Est-ce que vous allez déposer un mémoire là, à la commission parlementaire justement sur le projet de loi en immigration de Jean-François Roberge?
Oui, on a déposé, puis on va passer en consultation aussi.
Parfait. Puis vous, vous prônez là, justement pour que les seuils soient rehaussés par rapport par rapport aux aspirations de la CAQ?
Ben nous, on prône principalement, peu importe le nombre de seuils qui sera identifié, de s'assurer qu'on garde une prédominance pour les régions du Québec, parce que c'est vraiment là où les besoins sont les plus présents, puis de s'assurer d'avoir des gens qui sont francophones ou francophiles. C'est super important pour nos entreprises. Mais ce qui est le plus gros enjeu, c'est de trouver des travailleurs qui ont des qualifications qu'on recherche. Là, on n'a pas, c'est pas une question de chiffres, hein, tout ça, c'est plus une question de qualification et d'adéquation entre les besoins et puis l'offre, en fait.
Madame Choulard, je vous remercie infiniment pour votre participation à l'émission aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée.
C'est moi qui vous remercie.
Au revoir. C'était Marie-Josée Chouinard, vice-présidente de talents internationaux et investissements à l'étranger. Vois-tu, c'est toujours intéressant de donner les deux côtés de la médaille, Mathias, parce qu'on se rend compte que c'est vraiment très productif le travail qu'ils font. Ils vont chercher des immigrants francophones, ils les amènent ici. Ces gens-là sont dans des postes qu'on n'est pas capable de doter avec nos travailleurs à Québec et ils commencent à travailler dès le jour 1.
Oui, puis c'est toujours facile de juger des personnes sans nécessairement avoir entendu leur vision des faits, puis c'est vraiment pas ça l'objectif. Quand il y a des questionnements qui doivent être apportés, de pouvoir directement parler à ces personnes-là puis apporter des questionnements pour avoir leur vision de la chose avant de tout de suite rentrer dans la critique, c'est beaucoup plus constructif que de simplement dire c'est ça qui est ça, puis c'est ça qui est ça.
Exactement. Donc, à souhaiter que la CAQ continue ne fasse pas de politique mur à mur, tu sais, qu'on prenne l'exemple de Montréal, qu'on mette mur à mur avec la province pour les seuils d'immigration, parce que c'est vrai que la population vieillit, puis c'est vrai qu'on va en avoir de besoin dans certaines régions du Québec, notamment ici dans la capitale nationale.
Oui, 100% taux de chômage à terre. Là, on parle de 4,3, 4,4%. Ça, c'est un taux de chômage général. Là. C'est très, très bas là, pour ceux qui ne le réalisent pas. Un taux de chômage de 5,5%, on parle déjà d'un taux de chômage qui est bas. Là, à 4,4%, c'est très bas. Donc, de dire on prend toutes les situations économiques au Québec qui sont toutes différentes, puis on uniformise ça, pour moi, c'est vraiment pas la bonne manière de faire la chose.
Non, en effet, un auditeur qui nous écrit, une auditrice, ce serait pas possible d'augmenter les salaires des professionnels à la place d'aller chercher des gens qui vont continuer d'accepter un maigre salaire pour une grosse job. Juste spécifier, en effet, il y a de ce type d'immigration, et je ne le nie pas, mais dans le cas de Marie-Josée Chouinard, on va vraiment chercher des gens spécifiques, des électromécaniciens, des ingénieurs même là-bas au Brésil. Donc, c'est quand même des emplois qui sont bien rémunérés. Mathias, tu nous as préparé un excellent dossier sur l'Alzheimer, mais avant, fais-nous juste un petit résumé là, de deux nouvelles là, qu'il faudrait savoir.
Oui, tout d'abord, je tiens à vous transporter à nouveau au sein de nos fameux dossiers numériques en santé. Cette fois-ci, c'est la transformation numérique des systèmes de gestion financière d'approvisionnement et des ressources humaines qui fait énormément de bruit depuis quelques jours maintenant. Puis ça, c'est en raison du gros travail que le Parti libéral fait dans le dossier. Ils ont obtenu une correspondance entre la PDG de Santé Québec, Geneviève Biron, et le sous-ministre du ministère de la cybersécurité et du numérique, qui suggérait autant à Santé Québec, autant au ministère de Christian Dubé de mettre sur pause, de suspendre ce projet-là à partir de l'été 2024. Et à partir de l'été 2024, on a demandé au ministère de la Santé à 5 reprises de soit suspendre ou soit d'arrêter complètement le projet.
Et lui, il a continué, notre Christian.
Il a continué, puis maintenant, je tiens à le préciser, le projet est suspendu. Le projet est suspendu après quoi? Après que Radio-Canada ait fait un gros travail et ait commencé à s'en sortir dans les médias, que ça pourrait devenir un sidekick numéro 2.
Exactement. Le contre-pouvoir médiatique fonctionne encore. Une dernière, Mathias?
Isabelle Demers, candidate à la chefferie de Lévis pour Lévis et chef de Lévis Force 10, donc son parti, s'engage à bonifier les infrastructures culturelles, l'enveloppe destinée aux initiatives citoyenne et d'augmenter l'offre en logement abordable. C'est ce qu'elle a dit aujourd'hui. Dans ses promesses, on note notamment rénover la salle de spectacle du Cégep de Lévis, l'agrandissement du vieux bureau de poste de Saint-Romuald et la création d'un centre d'archives publiques, un souhait qu'elle partage avec l'ancien maire de Lévis, Gilles Lehouillier, depuis longtemps.
On rappelle que le 21 octobre prochain, à midi, ce sera Serge Bonin de Repensons Lévis, Isabelle Demers de Lévis Force 10 et Stephen Blainey de Prospérité Lévis en débat sur nos ondes ici dans l'émission On en jase. Mathias, tout le monde, je suis certain qu'à peu près tout le monde chez les auditeurs connaît quelqu'un qui est touché par l'Alzheimer. C'est une maladie tellement triste parce que les gens viennent à perdre leurs souvenirs d'enfance, leurs souvenirs familiaux. Je l'ai vécu avec ma grand-mère, mais là, il y aurait de l'espoir.
Oui, je me suis entretenu avec le docteur Robert Laforce, un neurologue, cette semaine. Il m'a indiqué que présentement, deux médicaments partout à travers le monde font certaines preuves par rapport au retardement de l'évolution de la maladie. On parle de deux molécules différentes, le lecanemab et le donanemab. Je ne veux pas nécessairement rentrer dans les détails scientifiques. Je pense que ce n'est pas nécessairement ça qui va intéresser les auditeurs. Toutefois, le docteur Laforce montre que pour ces deux molécules-là, les premiers résultats semblent très encourageants.
Et puis, ce que les résultats ont montré, au fond, c'est que si on regarde les études longitudinales sur 4 ans, on se trouve à sauver une année de santé cognitive. C'est-à-dire que les gens qui n'étaient pas traités, après 3 ans, sont au même niveau que les gens qui, eux, sont rendus à 4 ans et qui sont traités. Alors, c'est pas banal, hein? Une année de santé cognitive, il faut réaliser que ça représente la différence entre quelqu'un qui a de la difficulté à conduire l'automobile, a de la difficulté à gérer ses finances ou faire des recettes complexes à domicile. Alors, c'est des gains qui ont été notés pas seulement sur la fonction cognitive, mais aussi sur le fardeau chez l'aidant. Donc, on a mesuré dans ces deux études-là l'impact à quel point les proches aidants devaient s'impliquer, par exemple, pour aider la personne qui commence à montrer des changements cognitifs. Puis vous savez, une étude avec un produit aurait pu être positive, l'autre étude avec un autre produit négative, mais les deux études vont dans le même sens.
Comme vous l'avez entendu, docteur Laforce a précisé, c'est sûr, Laforce l'a précisé, c'est sûr les patients qui sont atteints du stade début de l'Alzheimer.
Exactement.
Donc, au début du diagnostic, au début de la maladie. Puis justement, il m'a donné comme exemple des personnes de 55, 60 ans qui sont atteints de la maladie et qui peuvent, grâce à ça, sauver une année complète de santé cognitive. On peut,
incroyable.
Je veux dire, en termes de santé cognitive, pour une personne Alzheimer, on peut presque parler d'une année de vie au final. Là.
Exactement. Dis-moi donc, Santé Canada, il en pense quoi de ce médicament-là?
Ben, c'est là que le problème vient. Santé Canada, présentement, tarde beaucoup à appuyer le médicament, à l'approuver.
Exactement. Puis c'est un peu la démarche qu'on a fait quelques collègues récemment, c'est de dire... Pourquoi Santé Canada tarde à approuver un médicament qui est approuvé dans 50 pays? Alors, si vous faites le tour de la planète, on est à peu près les seuls qui n'ont pas approuvé ces médicaments-là. Si vous regardez les Américains, les Britanniques, les Chinois, les Japonais, l'Union européenne, hein, c'est beaucoup de pays, Allemagne, Espagne, Italie. Tout le monde autour de nous et nos collègues accumulent des données sur le terrain, ont approuvé ce médicament-là. Et on est les seuls au Canada à ne pas avoir accès. Et on voit nos patients se détériorer devant nous sans pouvoir leur fournir un traitement qui pourrait les stabiliser.
Hey, c'est donc bien fâchant. C'est une 50aine de pays, puis nous autres, on tarde.
Puis je sais pas si 88-971-1021, je sais pas si certains de vous ont eu un proche dans les dernières années qui ont été touchés par la maladie d'Alzheimer, puis qui aurait peut-être pu profiter de ce médicament-là, qui lui aurait permis d'être là pendant une année supplémentaire. Mais présentement, en raison de Santé Canada, ben ça tarde à être approuvé. Je veux t'amener sur quelque chose, par contre, parce que là, on parle quand même d'un médicament qui va jouer dans le cerveau.
OK.
Donc, forcément...
Des effets secondaires?
Ben oui, forcément, on parle d'effets secondaires.
le taux d'effets secondaires symptomatiques, c'est-à-dire avec un impact là, clinique sur le patient qu'on peut détecter, est très faible. Alors, dans un sens, vous savez, on est un peu comme rassuré qu'il y a des impacts, c'est-à-dire qu'on sait vraiment maintenant qu'il se passe de quoi avec ces molécules-là au niveau du cerveau, parce que ça génère l'édème, ça génère des hémorragies. Mais d'un autre côté, il faut bien prendre en considération ces effets secondaires-là. Donc, il y a des résonances magnétiques. Et dès qu'il y a un édème ou une hémorragie, ben nous, on va ajuster le traitement en conséquence. Mais je ne vous le cacherai pas, et c'est public, il y a quand même 3 patients qui sont décédés de ces traitements.
Ces 3 patients qui sont décédés, il faut quand même que je le précise, c'est 35 000 patients qui sont traités partout à travers le monde avec ce médicament-là. Donc, 3 personnes...
C'est quand même un pourcentage très minime.
Oui, ben en termes scientifiques, en termes médicaux, ouais. C'est un pourcentage qui est très minime, effectivement, même si chaque vie importe, il faut le préciser. Docteur Laforce a terminé son entrevue avec moi en précisant puis en demandant à tout le monde, puis je parle à vous, chers auditeurs, si jamais vous sentez que votre santé cognitive commence à baisser, si vous sentez des signes qui pourraient porter vers ça, c'est important d'aller consulter chez le médecin le plus rapidement possible. Parce que le plus rapidement que vous le faites, le plus rapidement, il y a des chances que votre médecin puisse intervenir pour vous aider dans ce processus-là.
Très belle mise en contexte, Mathias. C'est très bon conseil pour nos auditeurs. Et à souhaiter que ce médicament se retrouve sur les tablettes de Santé Canada rapidement.
Juste vous dire que Capital Direction Ouest, l'accident hauteur Première Avenue, c'est réglé. Donc, tranquillement, pas vite, le trafic qui s'était créé se disperse.
Partisan du Canadien qui est en position fœtus parce que le Canadien a perdu hier, eh bien, vous avez une chance de vous reprendre ce soir parce que Montréal visite les Red Wings de Détroit à Détroit. John Gibson, nouveau gardien de but des Red Wings, qui sera devant le filet au football 20h15. C'est les Eagles de Philadelphie qui ont perdu leur premier match la semaine dernière. 4 victoires, 1 revers qui visite les Giants à New York. 1 victoire et 4 revers pour la troupe de Brian Daboll. Et baseball majeur, 2 matchs de série, 18h08, Phillies de Philadelphie qui visite les Dodgers de Los Angeles. Los Angeles mène la série 2-1 et à 21h08, les Brewers vont visiter les Cubs. C'est 2-1 dans la série pour les Brewers. C'est déjà tout pour nous. Le retour de Gravel suit à l'instant même avec Denis, Véro et Audrey. Pour notre part, on se dit à demain midi. Bye bye, guys. Passez une belle journée.
Bonne journée.